Aujourd'hui, on va parler réseau. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Bonjour Jérémy.
Bonjour Cédric, merci de m'inviter dans ton podcast.
Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on est avec Jérémy Van Obdenbosch et sa spécialité, en tout cas ce dont il va nous parler, parce qu'il a peut-être d'autres spécialités, on va voir, c'est justement la constitution d'un réseau. Et moi, j'aime bien commencer par connaître, essayer de savoir ce que c'est que ton grand message dans ta vie. C'est-à-dire, c'est quoi ton truc, c'est de qu'est-ce qui te passionne et c'est quoi le truc dont tu parles tout le temps quand tu rencontres des gens.
Juste, là, je suis en plein dedans, je suis complètement aligné sur cette mission. Alors, j'ai un peu une mission déjà, c'est par rapport à une injustice.
Okay.
C'est que je vois beaucoup de gens qui sont talentueux, qui ont plein de projets, plein d'idées géniales, plein de potentiel, et malheureusement, ils sont cassés par leur entourage. Donc, ça veut dire que leur entourage, ce qu'on va leur dire, ça peut les éteindre. Souvent, je vois des gens qui sont diminués, donc qui abandonnent tout. Et c'est dommage parce qu'on passe en francophonie à côté de beaucoup de potentiel et beaucoup de valeurs. Et donc, je suis un peu, j'aime pas ces injustices de savoir qu'il y a des gens qui sont éteints à cause des autres alors qu'ils pourraient faire de belles choses. Et la deuxième mission, c'est un peu lié à ça parce qu'on se rend compte que quand on est éteint, donc on est plus renfermé sur soi-même, qu'on est timide par rapport à des choses qui se sont passées dans notre passé, ça peut être à l'école, ça peut être dans la famille, l'entourage, on n'ose plus trop parler aux gens, on n'ose plus aborder, on n'ose plus. Et donc, du coup, en fait, il y a plein de gens dans leur projet ou dans leur entreprise qui sont trop seuls et en fait, ils passent à côté de peut-être la chance de leur vie ou de la rencontre de leur vie. Et on sait, et ça, c'est mon message, c'est que le réseau, c'est pour ça que je suis spécialiste là-dedans, c'est un des plus grands leviers de réussite. En tout cas, moi, c'est pas le diplôme qui m'a fait le plus réussir et pourtant j'ai fait Polytechnique, c'est vraiment derrière les relations. On dit souvent que la réussite, c'est un parcours d'adresse et quand on regarde les plus grandes réussites au monde, ils ont tous un réseau. Donc, c'est les deux missions que je porte et surtout le message, en fait, votre talent, c'est votre moteur et votre réseau, c'est l'accélérateur et il faut les deux.
Ok, génial. Je vais te dire un truc, c'est vrai, j'ai jamais partagé, c'est que moi, justement, le réseau, je me sens pas doué du tout là-dedans. Donc, je vais être aussi intéressé que les auditeurs aujourd'hui à t'écouter parce que c'est vraiment un truc, je sais pas comment on fait. Et voilà. Et c'est d'ailleurs pas pour rien, je pense, que sur les 500 épisodes d'Outils du Manager, je crois qu'on en a pas parlé une seule fois. Donc, c'est incroyable. Alors que c'est un sujet qui est important. Quand on en a un peu discuté avant, je me suis dit, mais ouais, pourquoi j'ai pas eu l'idée de parler de ce truc-là avant?
Ah, mais moi, ça m'a joué des tours tout au début, quand je suis rentré dans le monde professionnel, dans mon business, ça m'a beaucoup bloqué de connaître personne.
Génial. Et est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle, on a compris, tu es révolté par l'injustice que ça peut représenter que certaines personnes aient du potentiel et qu'elles n'arrivent pas à l'exprimer parce que, justement, elles n'ont pas cette capacité à lier des liens, à rencontrer les bonnes personnes, etc. Mais toi, personnellement, il y a quelque chose dans ton histoire qui t'a amené à ça ou c'est simplement en observant les autres?
Oui, j'ai eu plusieurs histoires. D'abord, à l'école, moi, je suis de Belgique, de Bruxelles, et en Belgique, il faut parler le français et le néerlandais. Et donc, quand j'étais plus jeune, j'avais un appareil dentaire. C'était les appareils où il y avait un palais. Mm-hmm. Et donc, c'est difficile de parler. Et je suis en cours de néerlandais, je n'arrive pas à dire un mot. Et le prof me met devant toute la classe et il me demande de le répéter une fois, je n'y arrive pas. Mais il me demande une deuxième fois et j'arrive toujours pas. Une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une dixième fois. Et je commence à voir toute la classe qui est en train de rigoler, de se moquer de moi. Donc, en fait, j'étais en train de vivre une humiliation totale, mais ça a été jusqu'à 20 fois. Et donc, ça a été un premier élément. C'est comme ça que des gens deviennent timides et se renferment sur eux-mêmes. Parce qu'après, quand on vit ça, on n'a plus trop envie d'aller interagir avec des gens. Et donc, ça, c'est déjà une chose qui fait que ça m'a un peu bloqué. Déjà, j'étais introverti un peu de base, mais ça, c'est des choses où on se referme encore plus sur soi-même. Et à cause de ça, en fait, le deuxième événement, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû vivre ça dans leur entreprise. Donc, moi, j'ai commencé dans le consulting, dans un cabinet international, une Big Five. Et en fait, intrinsèquement, j'avais des très, très bonnes évaluations. Donc, j'avais une très, très bonne performance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour avoir la promotion, on est comparé. Donc, tous les consultants étaient comparés. Chaque consultant était sur un projet chez un client. Et après, on était comparés. Et comment on est comparé? On est dans des réunions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans des réunions, il y a des gens. Et moi, j'avais la meilleure évaluation. Donc, j'étais au-dessus de la pile. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, comme j'étais timide, personne ne me connaissait. Personne ne me connaissait pour deux aspects. C'est que dans la boîte, je réseautais pas. J'étais le prof qui allait être tout le temps derrière mon ordinateur. Et deuxièmement, je venais de changer de département. Donc, les deux effets font qu'on ne me connaissait pas. Et donc, dans cette réunion, Jérémy, qui en connaît, personne ne me connaissait, et donc mon dossier passait en dessous, en dessous, en dessous. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé, je pense, avant-dernier, alors que normalement, j'aurais dû être premier ou deuxième, et on était plus ou moins une quarantaine. Et donc là, je me suis dit, waouh, en fait, finalement, les relations sont autant importantes que finalement notre performance et nos connaissances et nos compétences. Mmh. Et c'est là qu'il y a une phrase dans le business que tout le monde devrait connaître, c'est que la réussite, c'est pas uniquement ce que tu connais, donc les connaissances, mais c'est aussi ce que tu connais, qui tu connais et qui te connaît. Et donc, en fait, le qui te connaît, bah, personne ne me connaissait. Et donc, je me suis dit, ah oui, il va falloir changer ça. Moi, je suis un ambitieux, j'ai envie d'avancer dans la vie, j'ai pas envie d'être calé à des promotions et des choses comme ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, waouh, c'est tellement important d'être connu dans sa boîte pour passer les échelons, et même dans l'entrepreneuriat, même dans tout secteur, soit le freelancing, l'immobilier. Je me suis dit, waouh, c'est ultra important. Et en réfléchissant, bah, je me suis dit, mais quand on regarde les grandes réussites comme modélisme, je me dis, mais c'est vrai, tous ces gens-là ont réussi à se développer un réseau, il faut que je sache le faire. Et ça, c'est ça qui a été le déclic.
Ok, ouais, donc tu avais quand même cette ambition, tu avais cette espèce de drive qui te poussait. Et justement, c'est quoi ton parcours? Peut-être c'est intéressant que tu nous retraces un petit peu tout ce qui s'est passé avant que tu arrives à aujourd'hui.
Oui. Donc moi, j'ai fait Polytechnique, puis directement, je suis rentré dans un cabinet de consulting, et là, je suis resté 5 années. Et là, on est dans les outils du manager, c'est un podcast sur management. C'est finalement le management qui a fait que j'ai quitté. Donc, à 27 ans, j'ai quitté. Et d'accord. J'ai créé mon propre cabinet de consulting. Et là, je signe le contrat de ma vie à 27 ans. C'est un contrat qui m'a valu derrière plus $1 million. J'ai conseillé, du coup, en fait, non seulement j'ai eu un contrat avec l'une des plus grandes banques du CAC 40, mais vraiment, voilà, c'est mondial, hein. Et surtout, je faisais des analyses pour le CEO et le comité exécutif de la boîte. Donc, je me retrouve un peu propulsé comme ça dans les hautes sphères alors que j'avais 27 ans. Et puis, pareil, j'ai fait 10 ans là-dessus. En parallèle, bon, j'étais en train de développer aussi mon réseau. Et puis, j'ai tout lâché. Tout lâché, les gens n'ont pas trop compris. De nouveau, l'entourage, on me déconseillait. Il m'a dit, mais t'as fait tes études, t'as une carrière, t'es dans les hautes sphères, tu gagnes énormément d'argent. À ce moment-là, je pense que j'étais dans le 1% dans mon pays qui gagnait le plus d'argent. Et j'ai tout lâché. Et là, les gens ne comprenaient pas parce que, en fait, j'avais. Il y a un peu le sens de la vie, c'est aussi la pyramide de Maslow, se sentir utile. Et je me sentais. Il manquait quelque chose. Et donc, j'ai tout lâché. Je suis parti vivre au bout du monde en Australie. Ah oui. Et c'est là que j'ai eu un déclic, en fait, en Australie, pour avoir le visa, parce que j'avais déjà, je pense, 37 ans, plus ou moins, je devais passer par une école de langue. Et ce qui s'est passé dans cette école de langue, c'est que je me retrouve donc, du jour au lendemain, de conseiller à un comité exécutif sur des enjeux à plusieurs milliards, à être dans une école avec des étudiants de 20, 25 ans. Et c'était plutôt 20 ans. Et donc, je me retrouve dans cette classe-là, et là, je me retrouve avec des gamins de 20 ans, mais qui était comme moi quand j'avais 20 ans. Ça veut dire qu'ils n'osaient pas parler, qu'ils étaient passifs parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux et ils étaient pas à l'aise de parler dans une autre langue. Et donc, moi, je me dis, mais chaque fois où je vais quelque part, je suis le style, s'il y a un dîner aujourd'hui où tout le monde s'ennuie, j'arrive 5 minutes après, c'est l'ambiance entre tout le monde. Bah, pareil, dans cette classe-là, j'ai commencé à interagir avec le professeur, à rigoler. Et en fait, ça a mis tellement les gens à l'aise que tout le monde a commencé à parler. Et quelques semaines après, le professeur vient me voir, il me dit, Jérémy, je te remercie. Pourquoi? Il fait, mais j'ai jamais autant pris plaisir dans mon métier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais créé cette atmosphère. Et 3 mois après, je reçois une lettre de recommandation, j'ai rien demandé, du directeur de l'école qui dit, Jérémy, non seulement, moi, j'étais pas là en Australie pour avoir un boulot, j'étais là en mode décontracte. Il me propose d'avoir un job carrément dans le marketing et le directeur marketing de leur école. Et parce que, en fait, dans la lettre de recommandation, il m'a dit, Jérémy, t'as impacté toute l'école. Il y avait des centaines et des centaines d'étudiants. Et donc, la performance de l'école, mais elle a explosé. Et je me suis dit, waouh, c'est là, au bout du monde, que je me suis rendu compte que je pouvais avoir de l'impact sur les gens. Okay. Et c'est comme ça que j'ai switché d'activité en me disant, waouh, je peux avoir de l'impact sur les gens. Je m'en étais pas rendu compte. Et qu'est-ce que je fais de bien et pour lesquels j'ai toujours des questions tous les jours? C'était le networking. Parce que, à côté, j'ai créé un réseau qui m'a fait rencontrer les personnes les plus inaccessibles de la planète. Et je me suis dit, mais il y a ce besoin. C'est vital. Enfin, c'est même vital. Et donc, pourquoi pas en créer une formation et des conférences? Et c'est parti comme ça. Et ça a cartonné, ça a explosé très rapidement jusqu'à faire des conférences à la Commission européenne, impacter aussi la culture là-bas. Et c'est comme ça que je suis passé là-dessus. Après, je suis entrepreneur dans l'âme aussi. J'ai créé d'autres boîtes, des entreprises dont une technologie qui a fait le tour du monde grâce à la magie du réseau aussi. Et voilà, ça, c'est un peu pour résumer le parcours.
C'est génial. En plus, quand tu en parles, on sent une grande humilité en même temps. C'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est-à-dire… pour avoir de l'impact, faut pas non plus écraser les autres. Et on sent ça chez toi. On sent que voilà, tu restes super humble par rapport à ce truc-là. Je trouve que.
Et c'est bien, c'est important de le dire pourquoi. C'est parce que quand je vois beaucoup de gens qui ont fait, qui ont rien fait dans leur vie et qui sont, mais qui ont le melon très rapidement dès qu'ils ont un mini succès. En fait, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et j'avoue que moi, quand j'ai eu 25 ans, je me suis retrouvé, enfin, j'ai pendant une petite période, j'ai un peu pris le melon, mais c'était très, très court parce que directement, il y a ma famille qui était là, les proches qui m'ont recadré. Et c'est important, l'entourage. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. J'ai été éduqué comme ça. Et après, en fait, ce que j'ai vu aussi, j'ai eu la chance de collaborer avec des Fortune 500, des CEO de très, très grandes boîtes, des médaillés olympiques, des champions olympiques. Et chaque fois que j'ai vu ces gens à haute réussite, en fait, le point commun, c'est que c'était des gens très, très simples. Et qui était dans l'humilité. Et je pense que vraiment, si on veut un parcours sur du long terme qui fonctionne bien, c'est toujours se remettre en question, toujours rester pour moi simple et toujours vouloir apprendre. Dès qu'on dit on est le meilleur et qu'on veut plus apprendre, bah, c'est le début de la fin. Et si en plus on est imbuvable, bah, du coup, bah, les gens, c'est le début de la fin. Et donc, c'est pour ça, en fait, je pense que j'arrive à garder les pieds sur terre grâce à mon entourage.
Alors, tu vois, pour des gens peut-être comme moi, puis ceux qui nous écoutent, en fait, le réseau, on n'arrive pas bien à se rendre compte que c'est ce que c'est. Tu vois, c'est un truc quand même un peu, pas virtuel, mais tu vois, c'est dur de se faire une réalité. Et ça m'intéresserait que tu nous dises en quoi le réseau, ça a un impact dans la vie d'une personne. On a compris que c'était, voilà, c'était un moyen de se mettre, de pas rester tout seul, de pas se mettre en avant, mais ce serait quoi les gros points dans un réseau? Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça transforme quelqu'un? Voilà,
Je pense que le bénéfice numéro un, c'est que ça peut changer une vie. Ouais. Et tous les gens qui ont réussi dans leur vie ont réussi grâce aux autres. Je prends des exemples. Bah, moi, déjà, mon propre cas, si je connaissais une personne dans cette réunion et qui m'aimait bien, bah, j'étais numéro un et j'avais ma promotion et j'augmentais mon salaire. Donc déjà, financièrement, socialement, j'évoluais plus vite. Donc, il n'y a rien que ça. Mais après, dans l'entrepreneuriat aussi, je prends le cas d'un écrivain. Un écrivain, bah, il y a plein d'écrivains dans le monde. Ils ont leur bouquin, mais c'est bien d'être avec leur bouquin. Leur bouquin est peut-être le meilleur bouquin au monde, mais si on ne connaît personne, comment le bouquin va être connu à travers la planète? Et ça, c'est le réseau. C'est trouver des gens qui sont complémentaires à nous, et sur les mêmes valeurs aussi, qui ont les mêmes valeurs, très importants. Peut-être qu'on développera ça. Mm-hmm. Et en fait, c'est des personnes tremplins. C'est des gens qui vont accélérer notre réussite. Donc, je prends un écrivain. Il y a des écrivains qui ont des super bons bouquins, mais ça va rester toute la vie sur leurs étagères. Et puis, il y a des gens qui vont trouver la personne, un éditeur, voilà, et l'éditeur fait confiance. Et bah, comme J.K. Rowling, et le bouquin est diffusé dans le monde, et J.K. Rowling termine avec une fortune à 1 milliard. Et c'est pareil dans tout, quelqu'un qui se lance dans un projet, donc là j'ai parlé dans le corporate, par exemple dans une carrière, mais quelqu'un qui lance un projet, peut-être qu'il a besoin de financement, bah, il va trouver, et là c'est trouver les personnes qui vont lui faire confiance et qui vont avoir un financement. Je prends un exemple, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Ty Chris avec sa boîte On-Off. Les banques n'ont pas voulu lui prêter de l'argent parce qu'il n'a jamais été à l'école et il venait du sport. C'est quelqu'un, un champion dans le sport, donc il n'a jamais vraiment eu d'expérience dans l'entrepreneuriat. Son projet était génial, mais vraiment ambitieux. Bah, c'est en activant son réseau du sport, les sponsors et tout ça, qu'il a réussi à avoir, je pense, plusieurs millions. Donc, c'est vraiment ses amis, son réseau. En activant son réseau, il a eu ça qui lui a permis après de trouver des talents et de développer son entreprise, aujourd'hui avoir une entreprise qui est en train d'exploser en francophonie. Donc c'est ça le réseau, c'est on a un rêve, on a un objectif, c'est trouver les bonnes personnes qui vont nous aider à l'atteindre. Cristiano Ronaldo dans le sport, alors je donne un dernier exemple, s'il n'avait pas rencontré un agent, un entraîneur, bah tout ça n'aurait pas été possible. Et je pense que c'est encore Mbappé qui l'a dit dans un dernier interview, il a dit, mais ou je sais plus qui, mais sans les autres on serait rien. Ou c'était Cristiano Ronaldo quand il a gagné la Coupe d'Europe aussi avec le Portugal, il a dit sans vous je serais rien. Et il y a eu sur YouTube, je pense qu'on peut retrouver son discours, ça a marqué les gens, et là on se dit ah ouais, c'est tellement important, on peut pas réussir seul, c'est impossible.
Et toi dans ta carrière, parce que tu disais que tu étais un peu timide au départ, pourtant tu as une forte accélération quand tu as travaillé pour cette grande banque dont tu parlais. Ça a été quoi, en fait, le truc qui t'a propulsé? Il y a eu un déclic, il s'est passé quelque chose, ou bien, ou t'as rencontré peut-être la bonne personne? En fait, on est curieux de savoir comment ça se passe en vrai, en fait.
Ben, je me suis transformé, en fait. J'ai vécu vraiment une transformation. Ben, il fallait déjà que je sois plus timide. Il fallait que je dépasse ça. Alors, il faut savoir, la timidité, c'est pas une maladie. Il y a des gens, ils disent, ouais, je suis timide, c'est comme ça à vie, ils le prennent négativement. Déjà, les timides, il faut savoir, les timides, c'est des gens, en général, qui ont une plus grande sensibilité, une hypersensibilité. Ça veut dire qu'ils ont des très, très grandes qualités. Après, il faut juste savoir apprivoiser sa timidité. Et quand on arrive à l'apprivoiser, mais ces gens-là sont les meilleurs réseauteurs au monde. Parce qu'ils ont des facultés, des facilités que les autres n'ont pas. Donc, c'est ça qui est paradoxal. Et donc, ben, je me suis dit, il va falloir dépasser la timidité. Et comment je m'y suis pris? Ben, je me suis dit, mais comment, Jérémy, t'as appris à rouler à vélo? Ben, quand on roule à vélo, on apprend à rouler à vélo la première fois. On est petit, on tombe, ça fait mal, très très mal, on peut même saigner, mais on va quand même recommencer. Et la deuxième fois, on retombe, ça fait un petit peu moins mal, on saigne plus, ça fait encore mal, mais un petit peu moins mal. Et puis on répète, et ça te fait de moins en moins mal jusqu'à y arriver. Et quand on y arrive, c'est quelque chose qui est devenu normal. Ben, j'ai fait ça avec la timidité. J'ai commencé à sourire aux gens. Avant, je n'osais pas sourire. Je me suis dit, on va commencer déjà à sourire aux gens, puis serrer des poignées de main, puis commencer à dire bonjour. Et comme ça, petit à petit, c'est pour ça que le magazine Forbes m'appelle l'entrepreneur aux 5000 rejets. Je me suis confronté au rejet. Et aujourd'hui, bah, le rejet, c'est quelque chose, j'en ris. Ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un me rejette, ça ne me fait plus rien tellement que j'ai pratiqué ça. Et c'est pareil, la timidité, en y allant étape par étape. Et ça va, c'est un cheminement qui est en continu. Aujourd'hui, moi, je vais, la timidité s'est transformée en audace. J'étais capable déjà d'aller voir un premier ministre. Et au moment où on allait prendre une photo ensemble, j'ai donné un ordre en disant, on va aller changer de place parce que la luminosité est pas bonne. Je me dis, il va me dire, mais tu crois que j'ai eu le temps d'aller changer de place? Et il l'a fait. Je me dis, ah ouais, quand même. Et là, on passe de la timidité à quelqu'un qui a une confiance en soi. Mmh. Et c'est important, la confiance en soi, pour que les gens aient confiance en vous. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mmh. Comme le vélo. Comment apprendre à rouler à vélo?
Ouais, en fait, on se demande pourquoi on a cette douleur, en fait. Pourquoi, finalement, bah ouais, t'es rejeté une fois, mais c'est pas grave. Mais ça nous touche, hein, quand on est sensible et ouais, c'est ça. C'est la peur du rejet, peut-être. C'est la peur d'être exclu, en fait, peut-être.
Et il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ça, parce qu'au début, j'ai été rejeté. Alors, je me dis, mais pourquoi je suis rejeté? Je suis quand même quelqu'un qui a fait des bonnes études, qui est pas bête, enfin, qui. Et en fait, je me suis rendu compte, on revient sur la phrase, je vais la répéter une deuxième fois, qui est tellement importante. La réussite, c'est pas ce que tu connais, mais qui tu connais et qui te connaît. Et en fait, quand on est rejeté, on peut être très, très bon, mais comme on nous connaît pas.
Ouais.
Bah, et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont le prendre personnellement. Et c'est horrible parce que quand on le prend personnellement, ça fait mal. Et il faut essayer de se détacher de ce côté personnel et de se dire, en fait, que ça fait partie du jeu. Les plus grandes réussites, de nouveau, ont eu énormément de rejets avant d'y arriver. Je reprends Ty Chris. Dans un de mes propres podcasts à la radio, j'ai une émission radio, il l'a dit, moi, j'étais dans des repas. Quand je parlais de mon projet d'entrepreneur, tout le monde rigolait. Mais aujourd'hui, il y est arrivé. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut prendre ça vraiment de manière pas personnelle. Et parfois, quand on vous répond pas à un email, c'est pas que votre projet est mauvais, c'est peut-être que la personne, elle était prête à répondre, mais puis elle a reçu un coup de téléphone, elle est partie gérer un autre problème, et puis elle a oublié. Donc, il faut toujours relancer. J'ai un autre mentor qui disait toujours, insister, c'est exister, c'est tellement vrai. Et dans le rejet, il faut insister tant qu'on n'a pas vraiment un vrai non catégorique, et s'il n'y a pas de réponse, c'est pas un non. Et, ouais. Et donc voilà, j'ai tellement pratiqué, j'ai une histoire où j'ai eu 5000 rejets, et ça m'a permis mais d'apprendre tellement. Et ce que c'est aussi un message que je veux faire passer aux gens, si vous faites rejeter, ne le prenez pas personnellement, c'est peut-être parce qu'on vous connaît pas assez. On prend Leonardo DiCaprio, il se faisait rejeter dans ses premiers castings, mais le jour où on lui a donné, et ça c'est de nouveau le réseau, un réalisateur lui a donné la chance de sa vie et qu'il a fait Titanic. Après, c'est devenu un acteur reconnu et connu. Et donc, du coup, c'est maintenant les gens qui… Il n'a plus jamais de rejet. Tout le monde veut travailler avec lui. Pourtant, c'est la même personne. Mais on est passé de… Beaucoup de gens le connaissent. Avant, je suis un inconnu. Et ça, c'est aussi… il faut travailler sur ça. Passer de quelqu'un qui est inconnu dans son domaine à une autorité perçue. Et dans le management, c'est pareil. Dans ta boîte, si tu n'es pas connu, ça va être difficile. Par contre, si tu réseautes dans ta boîte et que tu es connu de tout le monde… tu risqueras peut-être de terminer CEO. C'est, je pense, ce qui s'est passé avec le CEO de Apple, hein, Tim Cook. Quand Steve Jobs est décédé, il fallait trouver quelqu'un. On va prendre quelqu'un qu'on connaît dans la boîte, quelqu'un qu'on va connaître, et pas quelqu'un qui restait toute la journée derrière son PC et qu'on connaît pas, mais qui est peut-être meilleur. Et c'est comme ça que ça se passe.
Ouais, dans ce que tu dis, il y a deux choses, moi, qui me font tilt. Le premier truc, c'est il faut pas s'arrêter, je pense, à se dire « ouais, c'est injuste ». En fait, oui, le monde est injuste. Moi, je le dis souvent, le monde est pas juste. Le monde, il t'a pas attendu. Donc, tu peux trouver les choses injustes. Si tu fais rien, ben, tu auras toujours l'impression que c'est injuste. Et tu as dit un autre truc, c'est le mec qui répond pas à ton mail. Ben, c'est pas tellement qu'il t'aime pas. Ou... C'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à lui. C'est que lui, il a autre chose à faire à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec ta valeur, quoi.
C'est clair. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on ne répond pas à un email. Mais c'est pour ça, il y a des gens qui relancent pas. Et souvent... Je discutais avec Frédéric Mazzella, il me dit, c'est vrai, moi je suis tellement sollicité par mail que finalement j'ai commencé à répondre que quand je vois un petit 5 derrière le mail, parce que ça veut dire que quelqu'un insiste, et c'est peut-être du coup important, donc on va ouvrir en disant c'est peut-être important. Et c'est pour ça que parfois aussi, les plus grands vont, quand quelqu'un va les solliciter, ils vont voir si la personne en veut vraiment. Et donc, ils vont faire exprès limite de ne pas répondre en disant on va voir si la personne va me relancer pour voir si elle tient vraiment à me contacter, s'il a vraiment un projet qui derrière elle en veut. Et donc, c'est important de savoir ça aussi. Donc, ouais.
Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que on peut peut-être passer à l'intérêt pour un manager d'avoir un réseau ? Tu en as déjà parlé, mais est-ce qu'il y a des autres choses à savoir ? Moi, ça m'intéresse de savoir. Tu nous as parlé d'un rejet au niveau management, on en parlera après. Mais là encore, toujours sur le réseau, qu'est-ce que tu as envie de dire sur le réseau à un manager ?
Mais en fait, beaucoup de gens, il y a la quantité et la qualité. Ouais. Et en fait, les meilleurs, c'est la qualité des relations. Mmh. Donc, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 relations, le créer un réseau. Il y a des gens qui ont un réseau de 10 personnes, mais ces personnes sont tellement connectées dans le monde et ils s'entendent bien avec ces 10 personnes que c'est bien plus puissant qu'avoir un réseau d'un million de personnes, mais qui connaissent personne. Et la qualité, pour ça, c'est très important dans le management. Et je le sais de ma propre expérience, mais aussi parce que moi, j'ai travaillé avec des champions olympiques. Et on le voit aussi avec Didier Deschamps, par exemple, dans le football. C'est la qualité et le prime. Ça veut dire que, par exemple, on prend... je prends l'exemple de Karim Benzema. Karim Benzema, c'est un des meilleurs joueurs de football, un des meilleurs attaquants d'équipe de France. Et pourtant, il n'est pas sélectionné pour les Coupes du Monde et Championnats d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il a une mauvaise qualité avec les autres joueurs et l'entraîneur. Et donc, du coup, il peut être meilleur que les autres, mais il ne va pas être pris. Il va être d'autres qui sont moins bons pour le remplacer parce que la qualité n'est pas là. Et ça, un manager, en fait, s'il veut vraiment avoir des équipes et fédérer des équipes, il doit créer une super bonne qualité de relation avec ses employés ou ses talents. Si les relations sont toxiques ou sont mauvaises, mais les gens qui travaillent pour le manager ne vont pas se donner à fond. Par contre, si le manager il a une super bonne qualité de relation, il sait s'y prendre avec ses effectifs, il y a des effectifs qui vont donner peut-être leur vie pour le manager. C'est ce qui s'est passé avec certains grands entrepreneurs où ils ont réussi tellement qu'ils étaient, il y avait une qualité de relation que les employés d'eux-mêmes étaient prêts à travailler la nuit avec lui parce qu'il y avait aussi quelque chose de plus grand qui est la vision. Alors, un manager d'avoir une très très grande vision et puis fédérer les gens avec des grandes qualités de relation. Et quand on a une vision forte et qu'en plus on trouve le manager sympa, bon, on a envie d'y aller. Moi, je l'ai vécu dans le consulting quand je suis arrivé, et ça, c'est un conseil que je donne toujours, mais il faut que ce soit authentique, et cette personne-là le faisait de manière authentique. Consultant, moi, je suis mis chez des clients, donc je suis pas souvent dans les bureaux de la boîte de consulting. Il y a un moment, 6 mois après, donc j'étais nouveau, hein, c'était mes 6 premiers mois, je retourne dans les bureaux, et là, je croise une partenaire, donc quelqu'un très important dans la boîte, qui me dit, bonjour Jérémy, est-ce que tout se passe bien? Je me dis, mais comment elle connaît mon prénom? Il y a des milliers d'employés dans cette boîte, et moi, ça m'a touché. Je me dis, waouh, cette personne, elle me connaît, ça m'a valorisé. Je préfère travailler à fond pour cette personne-là que quelqu'un qui a une mauvaise qualité des relations, qui va me snobber ou qui va me dire c'est quoi ce petit analyste qui vient de démarrer et qui me snob. Lui, j'ai pas envie de travailler pour lui. Et donc ça, c'est vraiment les managers, il faut savoir fédérer, et il faut savoir s'adapter aux gens et savoir créer des bonnes qualités de relations et que les gens en fait soient à leur aise dans une équipe. Et quand tout le monde est à son aise, c'est ce qui s'est passé en fait dans l'école en Australie que j'expliquais. À ce moment-là, quand les gens se sentent bien dans une équipe, parce que le management fait en sorte qu'ils se sentent bien, mais ils vont beaucoup plus s'exprimer, beaucoup plus communiquer, il va y avoir beaucoup plus de synergie, et la productivité augmente. Et c'est tout le temps ce qui s'est passé. Quand moi, j'avais des équipes, tout le monde, en fait, chaque fois que je quittais une mission, les gens pleuraient. Et après, on me disait, mais la productivité a diminué. Mmh. Ah ouais, mais donc ça, c'est le conseil de networking. Il n'y a pas que je dirais aux managers dans une boîte, c'est s'il vous plaît, prenez du temps avec vos équipes, ne soyez pas genre aussi avec la porte fermée dans votre tour d'ivoire. Soyez accessible et surtout créez une qualité des relations, une qualité de confiance. Ça, dans les Jeux Olympiques, moi, aujourd'hui, j'accompagne un champion olympique dans le hockey et ils sont champions olympiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le manager a donné beaucoup de confiance à chacun. Donc, chacun avait ses périmètres et son rôle dans l'équipe. Et en fait, la confiance fait que les gens se donnaient à fond. Si moi, on ne me donne pas confiance, on n'a pas confiance en moi, je n'ai pas envie de me donner à fond. Si on me donne beaucoup de confiance, je vais devenir ultra performant.
Je suis d'accord avec toi sur la qualité aussi. C'est que tu vois, un réflexe qu'on peut avoir, hein, moi, tu vois, j'essaye d'être productif dans ma vie, etc. Je dis, ouais, le réseau, ça prend du temps, du coup, après, il y a plein de gens, il faut s'en occuper, etc. Et en fait, c'est assez curieux que je me dise ça parce que quand je suis dans l'entreprise et que je suis au niveau management, je le dis souvent, je dis, c'est pas tant la quantité de temps que tu passes avec la personne, c'est la qualité du temps que tu passes avec la personne. Si régulièrement, t'as une bonne communication de qualité avec elle, t'as pas besoin que ça dure des heures. Au contraire. À la limite, si tu restes trop longtemps, bah, tu vas aller trop loin, tu vas ennuyer la personne, etc. Et ouais, je suis d'accord sur la qualité. Et aussi, peut-être, plutôt que d'avoir un réseau avec 100 000 personnes, il vaut mieux peut-être avoir un réseau avec moins de personnes, mais des personnes qui sont, elles, de qualité par rapport à toi, qui partagent des choses avec toi. Tout à l'heure, tu parlais de valeur. Et effectivement, avoir 100 000 personnes dans ton réseau, mais si on n'est pas OK sur les valeurs, etc., je suis pas sûr que ce soit super utile, quoi.
Ouais, mais c'est comme c'est. Et ça, c'est important au niveau du recrutement d'une boîte. Parce que si maintenant on prend quelqu'un qui rentre dans une boîte, un talent, et les valeurs sont complètement différentes que les valeurs de la boîte, ça va pas matcher. Ça va pas matcher et ça va créer des problèmes. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Quand quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de faillites, c'est que quand il y a deux personnes qui s'associent ensemble et les valeurs profondes sont différentes, sur le long terme, ça fonctionnera pas. Ça termine en procès et en faillite. Donc il faut travailler avec des gens complètement différents. C'est très important. Complètement complémentaires et différentes, mais il faut avoir les mêmes valeurs profondes. C'est comme finalement dans un couple, hein. Dans un couple, on va pas se marier avec quelqu'un qui a des valeurs complètement différentes. Sinon, on sait qu'à un moment, ça va péter dans tous les sens. Bah ça, c'est pareil, c'est les valeurs. Alors ça veut dire des gens complètement différents, des profils différents. Et c'est pour ça que dans des boîtes, il y a des départements avec des couleurs. Hein. Chaque personne a une couleur, on va dire, de prédisposition. Mais il faut qu'il y ait les mêmes valeurs. Et donc il faut avoir un réseau de gens de qualité. Moi, je vais donner un petit truc dont je parle pas beaucoup, mais il y a les réseauteurs et les connecteurs. Et je conseille toujours d'avoir dans son réseau des connecteurs, parce que les connecteurs, ce sont des gens qui sont connectés. Ça veut dire que si vous avez quelqu'un avec qui vous avez les mêmes valeurs et c'est un connecteur et vous entendez bien avec, ce connecteur il peut vous ouvrir 10 000 portes. Donc je préfère avoir un réseau avec 10 connecteurs que un réseau avec des gens avec qui il n'y a pas du tout de valeurs communes et en plus ils connaissent personne. Et donc là, bah, ça prend pas de temps de créer un réseau, ça prend pas beaucoup de temps. Il y a l'effet long terme où il faut planter des graines, mais après, la seule chose qu'il faut, c'est une intelligence relationnelle que j'avais pas au début, et ça s'apprend de nouveau. Moi, je forme des gens aujourd'hui qui, au début, quand ils osent pas regarder dans les yeux quelqu'un, et maintenant, ils se retrouvent à la télé à parler de leur projet. Bah ça, c'est important aussi, parce que tous les jours, on peut rencontrer quelqu'un qui peut changer notre vie. Mais maintenant, quand on rencontre quelqu'un qui peut changer notre vie, il faut savoir s'y prendre. Et ça fait partie du réseautage, comment on s'y prend. Et ça, c'est l'intelligence relationnelle. J'ai vu des gens qui avaient un super bon potentiel, mais ils ont eu peur, ils ont bégayé. Et donc, la connexion, le feeling n'est pas passé. Donc, comme on dit, ils n'ont pas su se mettre sur une même longueur d'onde. Il n'y a rien qui s'est passé. Si ça se passait, c'était le contrat de sa vie. Et ça, gérer ces moments clés, c'est aussi l'intelligence relationnelle. Et ça, n'importe qui, il ne faut pas attendre 10 ans. Ça, c'est dès demain, si on sait s'y prendre et on fait une seule rencontre, ça peut de nouveau changer la vie. Il ne faut pas commencer à avoir une stratégie, à devoir aller dans des événements tous les soirs, ce n'est pas comme ça. Moi, je reviens de vacances. Okay. Dans l'avion, moi, je parle à mon voisin, ma voisine, pourquoi je suis à l'aise ? Bah, y a plein de gens, je regardais, ils étaient sur leur tablette ou ils dormaient avec leur oreiller là qu'on met. Et en fait, je me dis, c'est bête parce que peut-être que la personne à côté de toi, c'est quelqu'un, en fait, tu lui parles parce que tu es à l'aise, tu as une intelligence relationnelle, bah peut-être que derrière, ça peut déboucher. Et moi, j'ai vu des choses et je l'ai vécu et d'autres personnes. Dans un Thalys, dans un avion, ils ressortent de l'avion, ils ont un contrat qui est signé et ça change la dimension de leur business. Et donc, et ça va très vite. Donc, il y a le court terme où il faut avoir l'intelligence relationnelle et du coup, quand on l'a, et ça peut s'apprendre très, très vite. Bah, n'importe quelle rencontre peut changer une vie. Et puis, il y a aussi planter des graines. Moi, il y a des gens que j'ai rencontrés. Il y a des choses qui se sont passées 3 ans après. Je prends l'exemple de Stromae. J'ai accompagné Stromae au World Music Awards. C'est parce que, auparavant, 2 ans auparavant, j'avais rencontré quelqu'un. On a gardé ce lien de qualité. Et puis, elle a pensé à moi. Elle a dit, Jérémy, je sais que t'es belge, que tu connais Stromae. Bah, chance pour moi. Je connaissais le manager. Et ça s'est fait comme ça. Mais là, c'est des graines qui sont plantées. Et c'est pour ça qu'il y a le côté exponentiel. Ou quand on plante des graines, bah, sur le long terme, ça fait son effet. Donc il y a du court terme, long terme, et il faut pas. Les gens disent ça prend beaucoup de temps. Non, c'est juste un mode de vie et intelligence relationnelle à développer.
Et un truc que tu as dit qui m'a fait tilt là dans ce que tu viens de dire, il faut connaître des connecteurs. Et tu vois, chez Outils du Manager, on parle souvent de la méthode DISC, dominant, influent, stable, consciencieux, ou la méthode des couleurs, rouge, jaune, vert, bleu. Et tu vois, un truc qui m'avait pas fait tilt, même si t'es pas influent, donc jaune, parce que les connecteurs, souvent, c'est des jaunes. C'est le gars, comme tu dis, il est dans l'avion, ouais, il parle au mec derrière, il parle au mec devant, il connaît toutes les hôtesses, voilà, etc., etc. Et puis, quelquefois, toi, t'es plutôt style bleu, c'est-à-dire la personne plutôt dans ses mails, son machin, son truc, ou rouge, non, moi, je vais à l'essentiel, je vais pas m'embêter à parler à plein de monde. Mais c'est pas grave, parce que t'as raison. En fait, t'as pas besoin de devenir jaune, t'as pas besoin de complètement transformer. Il suffit que tu connaisses quelques jaunes, que tu t'entendes bien avec eux. Alors, faut faire l'effort, évidemment, de les contacter, même si ça peut t'agacer un peu leur manière de faire, etc. Mais ils vont te donner, effectivement, une entrée sur plein de choses possibles. Eux, donc peut-être, par exemple, pour quelqu'un qui a peur d'être submergé par le nombre de contacts qu'il aurait, se dire, ben non, suffit que tu connaisses 3-4 personnes qui elles-mêmes en connaissent des centaines, et puis des fois, ça peut démarrer quelque chose.
C'est exactement ça. Tu vois, quand je parlais d'avoir les mêmes valeurs, mais des gens complètement différents, bah, quelqu'un qui est peut-être bleu ou rouge, il va se dire, mais dans ma boîte, il me faut absolument un jaune. C'est pour ça que moi, je suis tout le temps sollicité. J'ai des mails tous les... Parce qu'on veut que j'apporte des affaires, des choses comme ça. Et donc, ces gens-là ont compris. Ils disent, bon, moi, je n'ai pas envie de me transformer. Même si c'est très, très bien qu'eux aussi puissent y arriver. Parce que bah, eux, il y a des gens, ils peuvent assez se répéter soi-même de ne pas être devant l'opportunité de sa vie et la louper. Et donc, ouais. Il y en a qui se disent, on va aller trouver ces connecteurs qui sont de couleur jaune, en effet, et qui sont plus complémentaires. Ouais.
Ouais, super intéressant. Et à un moment et plusieurs fois, parce que tu dis il faut développer une intelligence relationnelle, mais tu vois, ça s'apprend comme le vélo, etc., etc. Tu vois, j'entends ça, mais c'est dur là aussi de se dire mais c'est quoi, comment on fait, et ce serait peut-être intéressant, parce que tout à l'heure tu as dit Forbes te nomme comment tu dis la personne aux 5000 rejets.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi 5000 rejets?
Alors, je vais expliquer l'histoire. J'en ai même eu plus, mais j'ai accumulé 5000 rejets en un mois. Donc, j'ai été, je pense, l'entrepreneur en Belgique le plus rejeté dans mon pays. Alors, comment ça s'est passé? C'est que je suis entrepreneur et j'avais créé une technologie, un produit. Pour expliquer rapidement, comme je réseautais, j'allais à beaucoup d'événements et il y avait un événement, c'était une soirée de fou, investissement de 2 millions d'euros pour la soirée. Et en fait, il y avait le champagne qui coulait à flot avec des fontaines d'artifice, comme des fontaines qu'on met sur les gâteaux. Et il y a une fontaine qui est tombée sur mon doigt et ça m'a fait très, très mal. Et là, directement, warning, je me dis comment ça se fait que ça tombe sur mon doigt et je commence à googliser en disant est-ce qu'il y a des dispositifs pour la sécurité, tout ça, j'en vois mais pas trop, je vois qu'il y a même des incendies dans des établissements, je me dis ah il y a peut-être un truc à créer et là bam, j'ai l'idée mais je sais pas créer ça seul, moi je suis pas, j'ai ce côté-là d'avoir une idée et bah ça c'est le réseau, le lendemain je rentre chez moi, chance pour moi, dans mon réseau proche, il y a mon père qui est architecte et là bah lui il a ce côté intelligence dans l'espace et tout ça et il dessine une pièce et on crée cette pièce. Et ça commence à prendre. Et là, on est sélectionné pour un concours. Toujours, je vous dis, dans vos activités, participez à des concours. C'est une manière de vous faire connaître. Et c'est aussi une manière après de passer même dans les médias quand on fait des concours. Et donc, je participe à ce concours. Il y a 1200 participants. Donc, le but, c'est pour gagner, il faut un maximum de votes. Donc, il faut que des gens votent. Et donc, les gens, c'était des votes gratuits, mais il fallait qu'ils votent. Et je commence avec mon réseau proche via les réseaux sociaux. Je dis à mes amis, votez. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous, il y avait un site internet, tous les 1200 participants avaient leur tête et un compteur. Et donc, quand quelqu'un votait, une seconde après, le compteur était incrémenté d'une voix. Et moi, je disais, les réseaux sociaux, bon, allez-y, votez pour moi. Et les gens disaient, on a voté, je voyais rien. Donc, je me dis, bande entre guillemets d'enfoirés, vous me dites que vous avez voté, mais vous savez pas que moi, je peux voir derrière. Et là, je me suis dit, si je veux gagner les réseaux sociaux, ça va pas fonctionner comme ça. Parce que, on est trop à distance. Et c'est pour ça que finalement, les réseautages physiques, c'est important. Je me suis dit, je vais aller voir les gens. Et donc là, j'ai utilisé mes études de polytechnique en mathématiques appliquées en me disant, bon, voilà, après une semaine, les tendances sont comme ça, donc j'ai fait un peu des estimations, enfin des projections, des projections, et je me suis dit, ok, pour je pense à la fin des 5 semaines, pour gagner, il faut 10 000 votes. sont un peu des modèles mathématiques, et je me suis dit, ok, ben, il va falloir aller voir, je ne sais plus, en tout cas sur 5 semaines, c'était avoir 400 votes, je pense, par jour, plus ou moins. Donc, je devais aller voir 400 personnes. Je me dis, on va faire le truc à fond. Et donc, je me suis retrouvé chaque soir, donc j'étais encore dans le consulting, donc je quittais à 18h, 19h, de 19h à 23h, minuit. J'allais, donc c'était au mois de mai, juin, donc il faisait beau, j'allais dans des endroits ciblés où il y avait beaucoup de monde, donc une place, par exemple, où il y a plein de bars, cafés, où je sais qu'il y a du monde, et j'allais voir comme ça 400 à 500 personnes par jour. Et j'ai eu à la fin, donc c'est très psychologiquement, c'est un truc de fou, hein, parce que au début j'étais à fond. Après une semaine, j'en pouvais plus, mais mentalement je me suis dit, vas-y, fais l'expérience à fond, c'est une expérience de malade, il y a personne qui a jamais fait ça de sa vie, et je l'ai fait. Et donc j'ai rencontré au total 15 000 personnes, et j'ai eu 5 000 rejets, 5 000 personnes qui m'ont snobé, qui m'ont dit va te faire foutre. Il y a même des gens qui ont voulu me frapper parce que c'était sponsorisé le concours par une équipe de football. Donc quand moi j'allais avec le sponsor, on voyait, hein, sur, ils savaient, et donc quand on avait une équipe concurrente, bah, il a dit va te faire foutre, bah, j'ai failli être tapé, j'ai tout vécu, et en fait j'ai eu 5000 rejets, et j'ai appris beaucoup de choses sur le chemin. Je vais donner un exemple que j'ai appris, et beaucoup de gens se font rejeter pour ça, c'est que quand je voyais les autres qui avançaient dans leur compteur, en fait moi ça me stressait, parce que je me dis oui, il faut absolument, quand on est stressé, donc quand j'allais voir les gens j'étais stressé, et le fait d'être stressé, je parlais vite, et quand je parlais vite, ça faisait peur aux gens et j'en votais pas. Et le fait, et c'est la synergologie, on dit que la communication 70% finalement c'est pas le parler, mais c'est la synergologie, le body language. Quand j'ai baissé le rythme du son, le rythme de mon débit de parole, en fait j'étais la même personne, j'avais le même produit, et ben mes votes étaient multipliés par 2. Et c'est là que je me suis dit, donc j'étais plus rejeté. Mais au total, j'ai quand même eu 5000 rejets. J'ai vécu une expérience incroyable et j'ai gagné le concours. Donc, j'ai terminé premier sur Bruxelles et deuxième sur 1200 sur toute la Belgique. Et ça, derrière, bah, ça active le réseau parce que du coup, quand vous gagnez un concours, vous avez de l'autorité. J'ai été après recommandé par quelqu'un de très, très important qui m'a ouvert beaucoup de portes. J'étais dans les médias. Avec ce produit, on a servi les plus belles tables de Paris Hilton à Johnny Depp ou à Wiz Khalifa. C'est comme ça que ça a fait le tour du monde. Mais cette expérience de vivre 5000 rejets, bah, aujourd'hui, tu comprends que le rejet, je m'en fous. Si quelqu'un me rejette, je m'en fous. Et je sais que ça fait partie du jeu, mais surtout, j'ai appris plein de choses sur le chemin. Et
c'est ça, tu as appris plein de trucs.
Ah ouais, mais ouais, et au début, il n'y a personne qui croit en toi. Et puis, quand tu vois que ça commence à prendre, tu vois qu'après, il y a tout le monde qui était derrière toi. Il y a des gens qui, à un moment, sont venus une soirée avec moi m'aider. Ils sont retrouvés dans un parc avec moi à m'aider. Je me dis, waouh. Et ça, derrière aussi, il faut avoir une vision forte. Hein. Pourquoi ? Parce que tenir 5 semaines en se disant, il y a déjà la journée où on est déjà crevé et que le soir, on se dit, de 18h à minuit, parfois jusqu'à 2h du matin, aller rencontrer 500 personnes et se dire qu'on va le faire pendant 5 jours, il faut mentalement, j'étais mort, mais le dernier jour à minuit quand je l'ai fait, mais on est la personne la plus heureuse au monde. Dans le sport, on appelle ça le flow. Mais aujourd'hui, cette expérience, bah, rien que l'avoir vécu, et c'est ce que je dis aux gens, vivez des choses, parce que derrière, après, bah, Forbes, ça l'a intéressé. J'ai eu un article sur Forbes, et c'est ça qui fait qu'après, je termine sur des TEDx, des conférences TEDx, parce que cette expérience m'a duré 5 semaines, mais elle va être valorisable à vie. Et j'ai 10 000 histoires. Je vais même expliquer un autre truc que j'ai appris qui est important. C'est qu'à un moment, j'étais désespéré. Il y avait des gens qui avaient des candidats qui avançaient plus vite. Je me retrouve 23 heures dans un parc. Et comme je sortais j'étais dans le consulting, j'étais en costume cravate avec une montre. Et là, je vois des jeunes, mais genre, ils font un peu peur. Ils étaient en train de fumer et tout ça. Et j'étais les voir. N'importe qui aurait baissé les yeux et serait parti. Et quand ces jeunes, si on voit, ils voient tous les jours des gens qui baissent des yeux, genre j'ai peur, en fait, c'est ça qui les rend agressifs. Et moi, en fait, quand j'ai dit j'ai besoin de votre aide, déjà, ils ont avalé de travers. Ils ont dit, le gars, c'est bizarre. Et donc, j'ai dit, écoutez, je participe à un concours. Et là, c'était les premiers à m'avoir aidé, à appeler la maman, le papa. Et je me suis dit, waouh, en fait, c'est au niveau dans la valorisation des gens. Il y a des gens, et c'est ça, moi, j'ai un ami, il se faisait tout le temps agresser. C'est parce qu'il changeait de trottoir. Et donc, les gens se sentaient dénigrés. Et du coup, aller l'agresser. Alors que quand on va leur. Je me suis dit, mais c'est fou, parce que je ne m'étais pas rendu compte de ça. C'est que le fait de leur demander de l'aide, et en fait, dans la vie, après, le verbe aimer, c'est le verbe aider le plus puissant au monde. Ils se sont sentis tellement valorisés qu'ils avaient envie de m'aider, et ça a contribué à ma réussite, ça aussi. Et donc, ça a aussi été une belle expérience sur le chemin où je me suis dit, ouais, ne dénigrez pas les gens, valorisez-les. Vous allez voir que quand c'est dans le management, si quelqu'un vous valorise, souvent, moi, dans le management, j'avais des managers, ils allaient toujours voir la petite bête alors que tout était bon. Et c'est même à l'école. À l'école, quand il y a des professeurs où vous avez, il y a un élève qui a 9 bonnes notes et une mauvaise, on va mettre le focus que sur la mauvaise. Et donc, mettez le focus sur le côté positif et valorisez les gens, et vous verrez que les gens seront plus avec vous aussi. Et ça, finalement, je me suis rendu compte que c'est un peu une qualité de... Je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, c'est comme ça. C'est considérer les gens et vous verrez que ça vous apporte de belles choses dans la vie.
Et je suis d'accord avec toi, le levier de demander de l'aide à quelqu'un, c'est un énorme levier. Moi, j'avais lu ça dans un bouquin sur la vente, parce que moi, au début, quand il fallait que j'aille voir des clients, j'étais pas à l'aise, j'avais peur qu'il y ait un rapport de force, puis j'aimais pas être celui qui demande, parce que voilà. Et en fait, il y avait un mec qui m'avait donné un truc, c'est t'arrives et puis tu fais tomber ton stylo, ou bien tu te renverses un truc, et du coup, le mec en face, il va vouloir t'aider, il va t'aider à ramasser le stylo, etc., etc. Et c'est vrai que du coup, ça casse le rapport. Le mec, il t'a aidé une fois, tu vois, un truc pas important. Mais du coup, pour lui, après, c'est dur de t'écraser parce que il a fait un pas vers toi comme ça. Et je pense que le truc que tu as vécu avec les jeunes, c'est un peu ce genre de truc-là. Ouais, vous pouvez m'aider. Les mecs, ils s'attendent pas à ce que toi, bien costard et tout, tu leur demandes de l'aide. Plutôt, ils s'attendent à ce que tu les... Voilà. Ouais. Et en fait, quand tu demandes à quelqu'un de t'aider, tu lui donnes une opportunité d'être utile, donc de se valoriser, etc. Je trouve que c'est un super, super levier.
Ouais. C'est génial. Ça, je l'ai appris et c'est ce que je dis. Vivez, testez les choses parce que vous apprenez tellement sur le chemin. La finalité, elle était top parce que j'ai gagné le concours, mais au final, et j'ai même fait grâce, il y a des choses sur le chemin, c'est quand on crée en fait sa chance, parce que sur le chemin, j'ai aussi rencontré le Premier ministre. Et là, comme je suis bon réseauteur, à ce moment-là, j'ai réussi à le convaincre et on a fait la une de la presse avec le Premier ministre. Mais ça, de nouveau, ça donne de la notoriété perçue. Je peux dire à vie que j'ai eu un article avec la photo et là avec le Premier ministre qui m'a soutenu dans mon projet. Aujourd'hui, c'est le patron de l'Union européenne, donc c'est du Conseil européen, pardon. Donc c'est des choses qu'on vit sur le chemin. Et il n'y a pas que le résultat, c'est que sur le chemin, on va avoir des échecs, on va avoir des choses, on va apprendre, et c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on devient bon.
Oui, génial, génial. Est-ce que... bon, voilà, admettons, je suis convaincu, il faut que je développe mon réseau. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi? Comment on fait pour démarrer, pour se créer un réseau? Il faut se précipiter dans la rue et parler à tout le monde, parce que tu as dit qu'il fallait que ce soit plutôt en présentiel, etc. Tu as donné des exemples comme ça. Mais s'il y avait une stratégie à avoir, tu vois, il y a des gens, si tu leur donnes pas une stratégie, ils savent pas, avec un début, une fin, ils savent pas trop comment ça peut se passer. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un peu comme une stratégie, tu vois, pour créer son réseau?
Mais dans tous les cas, il faut en fait, c'est important, c'est un concept qui est connu, mais c'est sortir de sa zone de confort. Donc déjà, il faut avoir, c'est du mindset de se dire, bon, ok, je vais aller un peu dans la douleur, dans l'inconfort. Et c'est toujours dans l'inconfort qu'on progresse le plus. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, ok, ça faisait mal au début quand moi, je me suis dit, bon, il faut commencer à rencontrer des gens. Je me faisais snobber par tout le monde. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut accepter avoir ce mindset de se dire, allez, c'est bon, j'y vais. Et donc, pour y aller, il faut quelque chose de fort derrière. Pourquoi on le fait? Pourquoi moi? Parce que j'avais des ambitions, des rêves. Et je me dis, si je reste comme ça, je vais avoir des regrets en fin de vie. Donc déjà, c'est dans le mindset, se dire, OK, ça fait partie du jeu d'aller, de savoir dépasser ses peurs. Et après, il faut en effet dépasser, comprendre déjà ses peurs. Il y a plein de peurs différentes. Il y a des gens, c'est le rejet, mais il y en a d'autres, ça peut être le syndrome de l'imposteur. D'autres, c'est oser aborder. D'autres, c'est être intéressant. Et donc, il faut connaître les barrières qui nous limitent. Et après, ça s'apprend à déverrouiller une par une ces barrières. Alors, il y a plein de techniques. Hein. Moi, par exemple, comme je t'ai dit, en 3 jours, moi, j'ai un summit sur 3 jours. Il y a des gens qui arrivent totalement timides. Et le 3e jour, parce que nous, à notre summit, on a la radio carrément qui arrive, ils se retrouvent à parler à la radio. Alors qu'avant, ils n'osaient même pas parler à quelqu'un. Et là, ils sont à un micro. Et donc, déjà, ils parlent devant un public. Et après, ils parlent à la radio. Et donc, en fait, il y a beaucoup de déclics à créer dans la tête. J'en ai donné, hein, avec le rejet, en disant, attention, ne le prenez pas personnellement, quand on sait que c'est normal. Il y a des gens qui disent, ah, je suis rejeté, donc ils vont arrêter, je suis mauvais. Mais quand on sait aussi qu'on normalise des choses et qu'on dit qu'en fait, tout le monde est passé par là, et qu'on commence à transformer ça aussi comme un jeu. Moi, je prenais ça comme un jeu, comme un jeu. Et puis, il y a des lois aussi derrière. Et quand on les connaît, par exemple, la loi de Pareto, qui est connue dans n'importe quoi, c'est pareil aussi un peu dans le networking. Moi, au début, j'avais 8 personnes. Donc, Pareto, pour ceux qui se disent, c'est quoi? C'est 20% des causes amènent à 80% des effets ou des résultats. C'est pareil. Moi, j'étais prêt à avoir 8 rejets sur 10 personnes parce qu'il y en avait peut-être une ou deux qui allaient, où ça allait être le momentum. Et ça s'est toujours passé comme ça. Alors, parfois, j'avais plus de rejets, mais je sais qu'en discutant avec toutes les plus grandes boîtes, par exemple, des boîtes qui cherchaient des investisseurs, ils m'ont dit, mais nous, on a contacté 100 personnes, mais ils l'ont fait parce qu'ils savent que ça se passe comme ça. Ils en ont toujours eu une, deux ou trois qui ont dit oui, enfin, qui étaient intéressés. Dans les une, deux ou trois, il y en a un qui a tout lancé. Et après, en fait, quand on a une personne qui commence à investir, ça peut attirer d'autres investisseurs et on rentre dans ce momentum-là. Donc, c'est vraiment, c'est du mindset, Et après, c'est de la répétition. Alors, il y a plusieurs processus de répétition. Moi, j'en ai donné un. Au début, c'était juste commencer à… je vais donner le processus, par exemple, comment je suis devenu orateur. Aujourd'hui, je suis à l'aise sur scène devant des publics de 1000 personnes. Mais avant, moi, quand j'étais encore en Australie, il y a 5 ans, j'ai jamais parlé devant un public et j'étais comme ça. Comment j'ai fait?
Alors que je t'ai vu justement faire une conférence, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On dirait pas du tout que t'es quelqu'un qui a été, même si tu le dis évidemment et après on comprend, mais voilà, on n'a pas du tout cette impression quand on te voit, pas du tout.
Non, parce que c'est de la répétition, mais c'est comme rouler à vélo. Avant, on est incapable de le faire et maintenant tout le monde sait rouler à vélo avec confiance. C'est pareil. Comment j'ai fait? Au début, j'osais pas. Donc j'étais dans un cercle d'affaires et qu'est-ce que je m'amusais à faire? C'est juste tout au début, donc il y avait toujours après l'intervenant, on peut poser des questions. Je faisais juste ça, mais pas genre ça. Donc déjà, ça, c'était compliqué parce que je me dis, je peux quand même me faire avoir et quelqu'un peut me voir. Et puis, j'ai levé un peu. Puis quand j'étais à l'aise comme ça, j'ai fait un peu plus haut. Et puis comme ça. Et puis, j'ai commencé à poser une première question. Et puis, quand j'étais à l'aise, je me suis dit, OK, je commence à être à l'aise, à avoir le regard des autres sur moi. Je me dis, on va peut-être commencer avec une première conférence. Et je me souviens comment j'ai commencé dans le coaching. C'est que, de nouveau, c'est le réseau. J'ai dû acheter un écran blanc, les flip charts. J'avais appelé un ami, je fais, vas-y, fais une soirée chez toi, amène tes amis, je vais faire une petite conférence. Et j'ai eu 5 personnes. Et j'avais la trouille. Et après, je l'ai fait. Et puis, je l'ai refait une deuxième fois, une troisième fois. Puis, c'était 10 personnes. Et chaque fois, je passe des steps et on est de plus en plus à l'aise. J'ai aussi, pour développer ça, il y avait une application qui s'appelait Clubhouse. Ça a été pendant une année l'explosion. Cette application a été valorisée 4 milliards, je pense. Et en fait, on donnait des conférences via cette application. Et j'ai fait pendant 4 mois, tous les jours, des conférences. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis à l'aise. J'ai mon émission radio, j'ai fait des chroniques à la télé. C'est parce que j'étais, comme on dit, petit pas par petit pas. Et donc, c'est comme dans tout, c'est des méthodes à petit pas. Alors, il y a plusieurs étapes qu'on peut faire. Là, j'ai donné l'exemple pour parler en public. Et donc, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on va se transformer. Après, il y a aussi du tactique et du stratégique. Comment être intéressant? Alors là, je vais pas tout dévoiler. Mais par exemple, j'ai accompagné des étudiants. Normalement, les étudiants, ils doivent donner un CV pour avoir un job. Et souvent, les CV, il y a zéro réponse. Souvent, les jobs, on dit que c'est par cooptation. Moi, j'ai donné une méthode dans une université. Le soir, j'ai pris quelques étudiants avec moi qui ont été dans un cercle d'affaires. J'ai dit, on va faire ça. Ils ont pris ça comme un jeu. C'est pour ça que je fais des summits. Comme ça, les gens, ils se rendent plus dans un jeu. Ils osent plus faire les choses. Et donc, ces étudiants ont pris ça comme un jeu et ils ont connecté dans ce cercle d'affaires avec l'invité d'honneur qui était un très grand patron d'entreprise, une boîte qui est valorisée plusieurs milliards. Et ils ont appris à être intéressants. Et ils ont appliqué le soir même, donc là, c'est plus un hack de cerveau. Ils y sont arrivés et ils ont parlé pendant une demi-heure avec le patron, donc c'est le CEO. Et à la fin, il leur a dit, si vous voulez un job, c'est bon. Parce qu'ils ont réussi à connecter et se donner et être intéressant. Et puis, je lui ai demandé au CEO, mais pourquoi vous êtes resté 30 minutes avec eux? Je savais la réponse. Il m'a dit, vous savez, tous les autres gens qui sont dans le cercle d'affaires, c'est des opportunistes, ils vont venir me proposer leurs produits financiers, IT, tout ça, en mode business. Et les étudiants ont fait autre chose. Et donc, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'il a senti que ce n'était pas des opportunistes et ça a créé une meilleure connexion. Alors, après, il y a des hacks de cerveau qui ont fait que ça a bien connecté. Et là, on voit en fait qu'il y a quand même donc il y a vraiment du transformationnel mindset et puis il y a un peu du stratégie tactique. Comment créer une bonne connexion avec des gens. Parfois, vous allez tomber sur quelqu'un qui est super sollicité et vous avez 2 minutes. Là, il y a aussi des choses qui permettent d'accélérer tout. Et donc, ça, on est plus sur du… voilà, du tactique avec une méthode. Et c'est à la fin quand on développe le mindset, quand on se transforme et qu'après on a cette compétence qui se développe de manière avec des outils et des tactiques, ben, on devient très très bon réseauteur. Mais les meilleurs réseauteurs, c'est toujours, il faut que ce soit authentique.
Ouais. Ce qui est intéressant aussi. Ouais, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est il y a une espèce de mode d'emploi. Et ça, je sais que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont plutôt du côté rationnel et méthodique, etc., tu vois, profil un peu bleu, comme on dit, ça, ça les rassure. Je sais que, justement, quand on parlait de la méthode DISC et que je disais, bah, c'est le mode d'emploi des gens, la méthode DISC, tu vois, ah, ça, ça faisait tilt. Ah ouais, comme pour un ordinateur, comme pour... ma bagnole, comme pour mon vélo, etc., il y a un mode d'emploi. Ouais, avec les gens, il y a un mode d'emploi aussi, en fait, finalement.
Ouais, mais oui, et n'importe qui peut avoir ce mode d'emploi. Je vais donner un exemple. S'il y a des gens, ils disent, ouais, je suis bleu, je suis rationnel. Et donc, c'est vrai que je les vois quand ils vont à des événements, quand ils parlent, en fait, ils sont déjà en train de réfléchir à la réponse qu'ils vont donner et donc, ils n'écoutent pas vraiment la personne parce qu'ils stressent. Ils stressent de peut-être passer pour quelqu'un de bête ou quoi et donc, ils sont très rationnels. Eh ben, moi, je leur dis, oui, mais là, en fait, quand tu es avec cette personne qui est peut-être importante, tu es en mode, tu stresses, mais quand tu es avec tes amis, tu es quand avec tes amis. Elle fait, mais là, c'est la fête, machin. Et ben, je dis, en fait, le truc, c'est le rapport d'importance d'une personne à l'autre qui fait que, en fait, si tu sais le faire avec une personne, c'est le faire avec tout. C'est d'autres choses qu'il faut travailler pour que tu sois à l'aise aussi avec ces gens importants et que tu ne sois pas dans le rationnel en train de te dire, oh là là, je joue ma vie. Et en fait, on est du coup dans une relation qui est rationnelle et on, du coup, on sait que des bonnes relations, il y a autant l'émotionnel que le relationnel. Les meilleurs pitchs au monde dans des entreprises pour gagner des financements ou quoi, bah quand on va pitcher un projet, on va activer le cerveau gauche et le cerveau droit du cerveau. Donc, les deux parties. Et c'est l'émotionnel et le rationnel. Et les gens qui sont bleus sont très rationnels dans le networking, mais quand ils sont avec leurs amis, ils sont autant émotionnels que rationnels. Parce qu'on est à l'aise. Et donc, on revient sur l'intelligence relationnelle de comment savoir être à l'aise avec les gens. Et quand on arrive à le faire, et ça, tout le monde sait le faire, enfin, peut apprendre à le faire, c'est mon dada d'aider les gens à savoir le faire, bah là, on commence à devenir quelqu'un qui impacte les gens. Et ça, c'est génial parce qu'il y a des gens qui se disent « Mais moi, j'étais invisible, indolore, incolore. » Et je les vois après quelques mois avec une aura. Ils ont complètement changé et ils captivent les gens. Mais c'est parce qu'ils sont à l'aise. Et le principal, c'est d'arriver à être à l'aise avec n'importe qui. Et ça, ça a été quelque chose que j'ai répété. Aujourd'hui, moi, je suis totalement à l'aise. J'étais encore la semaine passée à une cérémonie nationale et je parlais à la plus grande fortune, des plus grandes fortunes de Belgique. J'étais à l'aise avec. Parce que c'est important de ne pas se soucier. Le fameux syndrome de l'imposteur aussi dans le networking, ouais. C'est important de se dire, en fait, moi, quand j'ai eu la chance de rencontrer Brad Pitt à, j'avais quoi, 26, 27 ans.
Qui ça?
Et je me suis... Brad Pitt.
Brad Pitt, ok. Ouais.
Dans mon réseau, j'ai des acteurs et j'ai réussi à le rencontrer. Ben, je me suis mis sur un pied d'égalité. Ça veut dire que, ok, c'est un acteur, il est génial, mais moi, je peux lui apprendre des choses aussi. Je suis bon dans les chiffres, dans d'autres choses. Je peux lui apprendre des choses. Et en fait, quand on met pas quelqu'un sur un piédestal et qu'on commence pas à lui dire, surtout ne dites pas à quelqu'un d'important, j'adore ce que tu fais, parce que là, ça, et tout le monde lui leur dit ça. Mais moi, j'ai été dans une autre dynamique. On était genre copain-copain. Alors, j'ai pas non plus été trop dans, voilà, il faut rester courtois et, mais, voilà, quand on a un profil où quelqu'un prend ces gens pour des gens normaux, et je vais même te dire que dans mes thèses, j'ai commencé à donner des ordres à des gens très, très importants. Et je me rends compte que comme ils n'étaient jamais habitués à ça, ils étaient perturbés, ils le faisaient. Et donc, c'est là aussi, il faut, dans le networking, c'est important, et dans le management aussi, ne jamais prendre quelqu'un de haut, et ne jamais non plus se sous-estimer. Moi, j'ai appris des choses de gamins de 20 ans qui m'ont mis une claque dans la vie, alors qu'ils ont 20 ans d'expérience en moins, mais on apprend de chacun par rapport à ses expériences. Et le syndrome de l'imposteur dans le networking, quand on a zéro expérience, vraiment ce qui est important, et Jean-Claude Van Damme, bah, il est belge, mais ça m'a touché, c'est comme ça qu'il a réussi, c'est l'intention. Quand vous parlez avec quelqu'un et que vous voulez avancer dans votre vie, que vous n'avez peut-être pas encore de connaissances, mais que vous avez l'intention, quand il y a une intention qui est forte, ça se ressent et souvent ça connecte parce que moi j'ai aidé des gens qui avaient une bonne intention parce que je me suis mis en fait… J'étais comme ça avant et donc ça connecte beaucoup et l'intention, dès que vous avez une bonne intention de vouloir avancer, de vouloir vous améliorer, mais ne vous mettez plus jamais dans la tête d'un imposteur. Et c'est ce que s'est passé avec Jean-Claude Van Damme. Il est arrivé aux États-Unis, il n'a jamais fait de cinéma de sa vie, mais il ne s'est jamais mis dans la tête d'un imposteur. Il a été, pour expliquer, c'est du réseau. Déjà, il a bougé, il a été là où il y avait peut-être des contacts à se faire et il est devenu serveur dans un restaurant pour rencontrer pour créer la chance de sa vie, qui était des grands producteurs ou des réalisateurs. Et donc, il a été serveur parce qu'il savait qu'il avait plus de chances d'aller de trouver dans ces restaurants-là des gens. Et donc, il en a rencontré. Et puis, il a eu de la chance. La loi de Pareto, il y a plein de gens qui l'ont rejeté. Et puis, il y en a un qui a dit, vas-y, viens dans mon bureau. Et là, c'était un non. Et il a été tellement dans l'intention de dire, mais vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, que, en fait, c'était bon. Eh ben, moi, je vais te dire, en fait, en me rappelant, moi, c'est ça aussi qui a changé ma vie. Il y a des rencontres qui changent notre vie. Ben moi, la première rencontre qui a changé ma vie, c'est mon premier entretien. Donc, j'avais raté des entretiens. Mais dans la boîte de consulting, j'étais à la phase finale. Et quand il y a tout un processus, des tests logiques, machin, ça, j'étais très, très bon là-dedans. Mais le dernier entretien, un partenaire, une des personnes les plus puissantes de la boîte, me dit, Jérémy, c'est quand même dommage. Tu es bon dans tout, mais le néerlandais. Et tu te souviens l'histoire du néerlandais où ça m'avait bloqué un peu. Il me dit, eh ben, ça ne va pas le faire parce que tu n'es pas assez bon en néerlandais. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que n'importe qui aurait se senti un peu comme un imposteur et aurait dit, bon, aurait accepté le truc. Moi, j'ai dit, non, il n'y a pas. J'ai été dans l'intention. J'ai dit, écoutez, le néerlandais, ça peut s'apprendre. Je fais des cours tous les soirs. Voilà, j'ai des chèques langues, machin. Je vais faire des cours tous les soirs. Dans 6 mois, on va se reparler. Et ben, directement, il a dit, c'est bon, je signe le contrat. Et 6 mois après, je l'ai revu. J'ai vraiment, toujours dans la vie, quand vous vous engagez, faites-le. J'ai été faire des cours de langue le soir et 6 mois après je l'ai revu, j'ai dû lui dire 2-3 phrases par hasard, on s'est croisé à la machine à café dans la boîte, mais c'est l'intention, c'est cette intention-là qui a fait que ça a changé ma vie, parce qu'après si j'avais pas été dans cette boîte, j'aurais pas rencontré d'autres personnes qui m'auraient amené à rencontrer d'autres personnes, qui a fait qu'aujourd'hui j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Si j'avais pas eu tout ça depuis le départ, tout ce qui le reste ne serait pas passé, et ça c'est vraiment l'intention. Donc ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, oubliez ça à partir du moment, soit vous avez des connaissances, aussi, ça c'est important, les HP au potentiel, il y a beaucoup de gens en fait qui minimisent ce dont ils sont bons. Ouais. Donc ça veut dire que pour eux, comme ils savent le faire, dans leur tête, tout le monde sait le faire. Et donc du coup, comme ils pensent que tout le monde sait le faire, c'est normal. Alors qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent avoir donné énormément de valeur aux autres. Et donc du coup, ils se prennent pour un imposteur parce qu'ils sont tellement des standards élevés que ce qui est normal pour eux ne l'est pas pour les autres. Je donne un exemple où moi, j'ai donné une conférence à la Commission européenne et je me dis, est-ce que je mets ce slide ou pas? Je me dis non, moi, je sais, c'est trop basique. Et du coup, je vais chez mon père, je lui dis, papa, tu connais ça? Il fait non. Je fais bon, on va le mettre à la Commission européenne. Je mets le slide et après, j'ai posé la question, est-ce que des gens connaissent ce concept-là? 80% ne connaissaient pas. Alors que pour moi, dans ma tête, tout le monde connaissait. Et ben, dans la réalité. Et donc, je me suis dit, waouh, ce slide apporte plein de valeur. Il y a beaucoup de gens qui sont des imposteurs. Alors, en fait, ils ont énormément de choses. À partir déjà du moment où on est passionné, on n'est déjà plus un imposteur parce que comme on est passionné, on sait des choses que les autres ne savent pas. Même si c'est normal pour nous, c'est pas normal pour les gens. Et donc, vraiment, soit il y a ce côté-là ou soit il y a le côté, si on sait rien, mais qu'on a l'intention, une très bonne intention, vous allez voir, n'hésitez pas à parler aux gens. Parce que les gens vont vouloir vous aider et vont vous écouter. Ils vont pas dire, oh, c'est un imposteur, parce qu'on sent l'énergie. Tout est dans l'énergie.
Mais un truc dont on a vraiment peur, en fait, quand on sait pas rentrer en contact avec les gens, c'est d'avoir l'air con. Tout simplement. C'est-à-dire que le mec, il te regarde en disant, mais d'où il sort, machin, etc. Et les leviers que tu donnes, ça fait tomber ça. Avoir de l'intention, ça focalise pas la personne sur toi et puis peut-être tes défauts, ça focalise la personne sur ce que tu veux et c'est assez différent, ça permet, non il est pas en train de me regarder moi, il regarde mon projet, déjà c'est plus rassurant. Et puis ce que t'as dit, non mais moi monsieur je suis là pour vous demander de l'aide parce que j'ai du mal, voilà, t'as le droit de demander de l'aide quoi, je veux dire, c'est pas ça qui va, non c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors quand même j'ai une question. Tu dis Brad Pitt, je l'ai pris d'égal à égal, mais comment on peut prendre... Déjà, comment on fait pour rencontrer Brad Pitt? C'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est, OK, une fois qu'on l'a rencontré, comment on fait pour qu'il se dise pas, mais c'est une des milliers de personnes aujourd'hui que j'ai pas envie de voir, quoi. Je comprends ce que tu veux dire au niveau théorique, mais concrètement, t'as fait quoi?
Ouais. Alors pour Brad Pitt, l'histoire, c'est en fait, j'ai appliqué une loi. Tout était, alors, je dis le réseautage authentique, c'est ça qui va vous amener à faire des choses incroyables. Alors comment ça s'est passé? Tout a commencé avec ce que j'ai dit. J'étais timide, il fallait que j'apprenne à sociabiliser, rencontrer des gens. Donc j'ai commencé à sortir en boîte quand j'étais plus jeune et en boîte, je suis devenu ambassadeur.
Okay.
Et c'est comme ça que, et donc en fait j'ai apporté de la valeur à cette boîte parce que c'était des tickets, on donnait, il y avait le nom sur le ticket, on amenait des gens et donc ça apportait beaucoup de clients à la boîte. Et donc du coup j'ai apporté de la valeur aux gens. Et donc, en fait, quand vous apportez de la valeur aux gens et j'attendais rien en retour, en fait, vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer. Et là, dans cette boîte, bah, le patron, déjà, il a commencé à me payer. Donc, j'ai rien demandé, on me paye. Donc, déjà, c'est ça. Et je me dis, ah ouais, c'est quand même fantastique, ça. Et puis, il m'a dit, Jérémy, je t'invite dans le VIP, tu peux être dans le VIP. Et là, je me suis dit, allez, on va faire des rencontres, un maximum de rencontres. Et j'ai commencé à faire des rencontres. C'est là où je me faisais beaucoup snobber. Oui, personne sur 10. Et puis, je rencontre de nouveau quelqu'un à qui j'ai donné de la valeur. Et donc, du coup, je rencontre encore quelqu'un. Et en fait, en donnant de la valeur aux gens, qu'est-ce qui se passe? Ça a été jusqu'à rencontrer un DJ à Paris. Et ce DJ était le DJ officiel du Festival de Cannes. Et il m'a dit, Jérémy, mets-moi dans les médias. Moi, je connaissais pas les médias. Mais en fait, c'est la seule personne dans le monde qui faisait ça, qui était au-dessus du tapis rouge. Et donc, je me dis, génial, je peux apporter de la valeur. Les médias, moi, j'ai rien à proposer. Je vais pas aller quémander, faites un article sur moi. J'avais rien. Mais quand, moi, je leur apportais quelqu'un qui était super intéressant pour du contenu au Festival de Cannes, parce qu'ils doivent créer du contenu, bah, j'ai réussi à le mettre au journal télévisé, au JT, devant quasi 1 million de personnes en Belgique. Et bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, j'attendais rien en retour, ne jamais attendre rien en retour, très important, sinon vous allez être déçu quand vous êtes trahi et vous allez vous éteindre. Que c'est important de jamais donner en voulant quelque chose en retour, ça c'est important dans le réseau, c'est donner sans attendre rien en retour. J'attendais rien en retour. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que naturellement, il m'a dit Jérémy, attends, je vais te présenter à des gens. Et donc, il m'a ouvert son réseau influent. Déjà, c'est ça qui a fait que je suis venu à Cannes. Et Brad Pitt était là à Cannes aussi. Et donc, tu as compris que petit à petit, on est à 6 degrés, à 5 maillons intermédiaires de chaque personne dans le monde. Bah, moi, j'étais plus qu'à un maillon. Enfin, j'étais même plus. Il était à quelques kilomètres de moi. Et donc là, le réseau, ce qui est intéressant, c'est que le réseau, ça va te donner des informations. Donc, je savais où il était. Et le réseau, ça te permet d'être au moment, au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne. Moi, il y a mon téléphone quand j'étais à Cannes. Ah, DiCaprio fait une soirée, et bam, c'est arrivé sur mon téléphone. Et donc, je me suis dit retrouvé aussi quelquefois chez DiCaprio. Donc, je l'ai rencontré aussi. Et donc, Brad Pitt, c'est comme ça qu'à un moment, je me suis retrouvé au bon moment, au bon endroit avec lui. Et donc, ce qui se passe, c'est ce que j'ai dit, c'est que face à des gens importants, mais il ne faut pas leur dire ce que tout le monde leur dit. Il faut être complètement disruptif et dire déjà être pas en mode, parce que quand on stresse, et là, on est dans la synergologie, bah, si on est stressé, tout ça, bah, là, la personne n'a même pas envie de vous parler. Donc, déjà, il faut avoir cette confiance en soi que j'ai travaillé. Et puis de deux, en fait, bah, ça c'est un coup de bol pour moi, mais Brad Pitt, il est dans le cinéma, mais il est aussi architecte. Moi, dans ma famille, ils sont tous architectes, donc je le sais. Donc le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut rencontrer Brad Pitt, ça c'est un coup de bol pour moi, mais si quelqu'un veut le rencontrer, commence à parler d'architecture avec lui, ça va beaucoup plus connecter, parce que là, Brad Pitt va dire, ok, ça c'est quelqu'un qui me connaît vraiment. Il s'est intéressé à moi.
Tu vois qu'il était architecte.
Ouais. Et alors, si on va au plus, on est précis sur un fait dans l'architecture, genre en 1984, t'étais là, machin, il va dire, ah ouais. Et donc, ça va le toucher. Et Angelina, elle était enceinte. On a parlé bêtement des femmes enceintes, des trucs comme ça. Et donc, on était dans une relation au pas, genre, waouh, t'as fait ce film-là, machin, je peux avoir un autographe. Et la photo, parce qu'après, ce qu'il y a, c'est que moi, même mes propres parents ne croyaient pas qu'ils m'ont dit, t'es timide d'avis. C'était un peu un pari que j'ai mis avec eux. Il faut savoir, c'est ce que j'explique dans mon TEDx. C'était le pas. C'était, je me suis mis le défi de le rencontrer. Donc, j'avais cette idée en tête déjà. Je me suis dit, est-ce que c'est possible de rencontrer n'importe quelle personne? Et je l'avais pris. Et c'est tout le sujet de mon TEDx que j'ai fait. Et quand je suis arrivé, bah, j'ai pas demandé une photo comme fan parce que je suis pas sûr qu'ils font facilement des photos. Mais j'aurais expliqué l'histoire. J'ai dit, écoutez, il faut que je prenne une photo parce que moi, quand je vais venir à la maison, en fait, je suis là, vous le sentez peut-être pas, j'étais quelqu'un de très, très timide. Et les gens pensent qu'on est timide, c'est comme ça à vie. Et je veux montrer aux gens que c'est possible. C'est pour ça que je donne des masterclass et des séminaires pour montrer que c'est possible. Et là, ils m'ont dit, mais vas-y, on fait la photo. Mais ce qui s'est passé, c'est que toute la sécurité de l'endroit est sortie pour me supprimer la photo. Et Brad Pitt a dit non, on a passé un bon moment avec lui. Et là, je me suis dit, mais c'est bingo. Moi qui étais timide et qui n'osais pas parler, qui était derrière mon ordinateur il y a quelques années dans le consulting, aujourd'hui, en fait, je suis à l'aise avec eux. Ils l'ont ressenti. Et donc, toujours, en fait, c'est dans la vie, c'est un conseil d'un milliardaire. C'est en fait, il faut faire tout le contraire de ce que 99% des gens font. Ben, moi, j'ai avec eux, j'ai fait tout le contraire. Alors, il y a le coup de bol. C'est souvent quand on aime les gens, moi j'en ai bien, et qu'on connaît des choses, bah, c'est comme ça qu'on peut plus facilement connecter. Si j'avais dit, ouais, j'aime bien ton film, et que j'étais en mode stress, tremblant, après 3 secondes, c'est au revoir, dégage.
Ouais.
Et alors, c'est sur le chemin que j'avais. En fait, j'ai tout appris comme ça en testant. C'est que quand je me suis présenté, j'ai dit Jérémy Van Obdenbos. Donc, déjà, quand on se présente, et quand on dit son nom, son prénom, ils se disent pourquoi il dit son nom, son prénom? On ne sait pas qui c'est, il est dans.
Ouais, je suis censé le connaître.
C'est peut-être quelqu'un qui est important. Et donc, ils vont quand même être plus, ils vont peut-être moins nier, on ne sait pas. Et donc, c'est ce que je dis aux gens quand vous avez présenté, dites votre nom et votre prénom avec une assurance totale, en regardant droit dans les yeux, et vous verrez que déjà, vous marquez des points parce qu'on se dit, ok, par contre, si on voit quelqu'un qui stresse, tu sais, c'est, en fait, tout est dans l'énergie. C'est comme, j'aime bien prendre l'exemple du chien. Si un chien, t'as peur devant un chien, il risque de te mordre. Si t'as pas peur, il va pas te mordre. Ben, c'est pareil avec les humains. Si t'es dans une énergie de peur, tu vas faire ton entretien, un examen à l'école, ton entretien pour gagner la mission de ta vie. Si t'es stressé, ça va se voir. Si t'as peur, t'es dans la peur, ça va se voir. Et donc, du coup, même si derrière t'es une personne gênée avec plein de projets, tu risques de rater tout. Ben, c'est pareil avec des personnes importantes. Quand on met sur un piédestal, on commence à avoir peur, on dit oui, il faut surtout pas que je dise un mot de travers, quoi. Et donc, du coup, on commence à plus être naturel, plus authentique, et ça se ressent. Et donc, du coup, on va créer plutôt une répulsion qu'une attraction.
Ouais, c'est clair. Génial. Super. Incroyable ton histoire avec Brad Pitt. Donc, tu as la photo.
Ouais, je pense qu'elle est sur mon Instagram. Je pense que si on va sur mon Instagram, elle y est, ouais. Avec les deux, avec Brad Pitt et Angelina.
Avec les deux, en fait.
Et j'ai de la chance, la photo est bien réussie.
Mais avec les trois, même si elle était enceinte, ouais.
Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, voilà. Et,
ok, ouais, c'est top. Alors, en fait, après, moi, j'ai une ou deux questions juste sur, ok, là, toi, Jérémy, tu as créé ton réseau. Maintenant, tu as un réseau qualitatif avec beaucoup de monde, tu l'utilises, ok. Comment on fait, en fait, pour... Est-ce que tu as des outils? C'est-à-dire, est-ce que c'est un carnet avec tous les noms des gens? Est-ce que tu as un classement avec telle personne, elle est utile pour ça, pour ça, pour ça? Comment tu fais pour entretenir ton réseau? C'est-à-dire, une fois que tu as contacté une personne, c'est bien, mais est-ce qu'il faut une routine, tu sais, pour la recontacter régulièrement? Tu vois, un peu ces aspects-là. Je sais que pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de réseau, c'est difficile à imaginer de comment... on cultive son réseau, comment on s'en sert, tu vois. Je comprends à quoi ça peut servir, mais comment on s'en sert? Une fois qu'on a fait, je sais pas moi, quelques relations, est-ce que tu as des routines, des choses comme ça, ou c'est tout, c'est dans ta tête?
J'ai envie de donner un outil qui est ultra intéressant. C'est souvent, on peut rencontrer quelqu'un, ça se passe bien, et puis on se dit, mais comment on prend le numéro de téléphone, la carte de visite? Ça, c'est une étape très importante. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui donnent juste leur carte de visite. Mais si vous donnez que votre carte de visite, vous perdez le contrôle. Parce que des personnes qui sont peut-être sollicitées vont recevoir 15 cartes de visite à un événement. Ouais. Et vous pensez bien que s'ils sont sollicités, ils sont importants. Le lendemain, ils sont occupés sur d'autres choses et ils vont avoir toutes les cartes de visite empilées et ça va rester sur un bureau. Et puis, quelques mois après, c'est à la poubelle. Donc, faut absolument, si on travaille sur les cartes de visite, de prendre la carte de visite de l'autre aussi. Comme ça, on garde le contrôle et on peut recontacter. Maintenant, les cartes de visite, pour moi, j'en utilise plus. J'en ai toujours sur moi juste pour avoir le côté un peu professionnel en montrant que j'en ai une et en plantant quand même une graine où on voit mon nom et mon prénom. Mais ce n'est pas pour être contacté ou quoi. Il y a une application, c'est un outil qui est génial. Ça s'appelle Cairn. Alors, c'est une application gratuite. Voilà, j'avais rencontré quand j'étais à l'ATD le créateur. Donc, c'est Q. Q-A-I-R-N. Et en fait, c'est génial parce que c'est une application. En une ou deux minutes, on s'est créé en fait un QR code qui est en fait sur notre smartphone. Mais qu'est-ce qui se passe, ce QR code? On peut mettre tout ce qu'on veut sur nous. Donc, le numéro de téléphone, l'adresse mail. Et quand la personne scanne, en fait, ça arrive, le contact est dans son téléphone. Donc, ça veut dire, il va juste sauver le contact et on est dans le téléphone. Et qu'est-ce que je fais après? C'est dit, envoie-moi directement un petit SMS. Un texto, comme ça, moi, j'ai le numéro de téléphone. Mais ça veut dire que moi, si je l'appelle, c'est pas un numéro inconnu qui va arriver, il y a mon nom et mon prénom. Et surtout, comme elle m'a envoyé un message aussi, j'ai aussi ses coordonnées. Et donc, ça, plutôt qu'une carte de visite où il y a trop d'étapes après à devoir encoder, tout ça, c'est compliqué. Un QR code, c'est bien. Sinon, il y a aussi le QR code de LinkedIn. Je pensais que tout le monde, tu vois, je pense que tout le monde connaît ça. Non. Il y a énormément de gens qui savent pas. QR LinkedIn, il y a une fonctionnalité, c'est juste en un clic, il y a un QR code et c'est pareil. Et quand on fait scanner, c'est la personne qui va nous rajouter sur LinkedIn et pas nous. Donc, on garde le contrôle. C'est nous qui l'acceptons. On est sûr d'être en contact sur LinkedIn parce que beaucoup de gens vont rajouter quelqu'un sur LinkedIn. Après, il faut que la personne accède. C'est pareil et c'est comme ça qu'après, on est sûr d'avoir le contact. Et après, il faut travailler sur LinkedIn parce que quand on envoie un message en privé sur LinkedIn, la personne va regarder qui vous êtes. Et il faut aussi travailler son profil et montrer que vous êtes quelqu'un de confiance, de professionnel. Et ça, c'est important. Et donc, ça, c'est vraiment un bon moyen de faciliter la prise de l'échange de contact. Après l'entretien, j'ai dit, on revient, ça sert à rien d'avoir 10 000 contacts. Et après, c'est assez naturel. Hein. Moi, c'est le réseau proche des amis, c'est on va aller aux anniversaires, on va aller manger ensemble, c'est naturel. Puis il y a le réseau proche où là, c'est de temps en temps prendre des nouvelles, prendre un café ou des choses comme ça. Et puis il y a le réseau qui est plus superficiel. Mais moi, ce que je dis, c'est que on peut faire d'une pierre deux coups à partir du moment où vous êtes visible. C'est important d'être visible. Si vous produisez du contenu sur qui vous êtes, et que sur les réseaux sociaux, on vous voit en permanence. Entre les gens, il faut rester dans la tête des gens. Bah, les gens, ils vont vous voir. Moi, je fais sur mon Instagram, ceux qui veulent aller voir mon Instagram, j'ai plein de réels. Et donc, c'est vu par des milliers de gens. Moi, je pense qu'on a touché plus de 1 million de personnes sur les 6 derniers mois. Bah, on reste dans la tête des gens. Le but, c'est de rester dans la tête des gens. Et puis, il y a des gens qui sont dans le réseau proche, qui puis vont devenir dans le réseau superficiel, et des gens qui vont passer du réseau superficiel vers le proche. Mais j'ai pas 10 000 personnes dans mon réseau. Ce que je sais faire, c'est que si j'ai un nouveau projet, je sais qui je dois aller chercher et je sais comment aller le chercher.
C'est ça.
Et donc, c'est des gens qui sont peut-être pas encore dans mon réseau. Mais comme je sais m'y prendre, comment aller chercher les personnes, mais c'est ça le plus important. Donc, j'ai pas besoin d'avoir 1 million de personnes. Et moi, ça me prend pas beaucoup de temps d'entretenir mon réseau. Et je vais même te dire, j'ai pas genre une base de données avec, ah, c'est un tel, j'ai rencontré. Ça, c'est peut-être un côté, j'ai la chance, j'ai une bonne mémoire. Par exemple, aujourd'hui, l'entretien qu'on a, le podcast, j'avais tout ça dans ma tête. J'ai pas dû mettre ça dans un agenda et des choses comme ça. Ça, c'est chance pour moi. Après, on peut structurer avec des CRM. Les gens qui ont plus du mal à avoir ça. Voilà. Mais il faut pas. C'est important. C'est la qualité et pas la quantité. C'est trouver les gens qui sont connectés.
Tu vois, ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc que je dis souvent en management. C'est que ce qui compte, c'est pas. Tu vois, par exemple, pour les chefs de projet. Tu as plein de chefs de projet. Ils obsèdent sur le logiciel de gestion de projet. Et ils se disent, j'y arrive pas parce que j'ai pas le bon logiciel de gestion de projet. Et moi, je leur dis, mais non, c'est parce que tu te focuses pas sur le bon truc. Une équipe sans logiciel de projet où tout le monde s'entend, elle va bien mieux réussir ses projets qu'une équipe où l'ambiance elle est pourrie et tout le monde se tire dans les pattes, etc. Avec un super logiciel de projet, donc te trompe pas de focus. Et là, tu vois ce que tu viens de dire, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est moi j'ai pas de logiciel, j'ai pas de machin. Par contre, j'ai la bonne attitude. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais comment aller chercher quelqu'un quand on a besoin pour un projet. Je sais comment connecter avec quelqu'un, etc. Et c'est beaucoup plus important que d'avoir le bon logiciel qui te dit, tiens, t'as pas mangé avec machin depuis 2 semaines, faudrait peut-être le rappeler, etc. Et en fait, moi, en plus, je pense que tout basé comme ça sur un soft et des méthodes et tout, ça te fait perdre un peu ton authenticité, justement.
Ouais, et après aussi, sorry, il fait un peu noir là. Je vois que l'écran chez moi est de plus en plus noir. Mais ce qui est important aussi, c'est que par exemple là, je suis sur ton podcast parce que j'ai accepté. J'ai refusé beaucoup de podcasts parce qu'il y a des gens qui le font pour les mauvaises raisons. Il y a des gens, je sens qu'il y a cette vision, on peut partager un message. Et donc comme c'est quelque chose qui devient important pour moi, en fait. Quand c'est important pour moi, c'est dans ma tête. C'est comme quand j'étais dans le sport, dans mes compétitions de natation. C'était tellement ma passion. Je connaissais tous mes temps de toutes mes compétitions parce que c'est quelque chose que j'adorais. Et donc, je préfère dire non à beaucoup de gens. Mais par contre, les gens à qui je dis oui, c'est des gens, c'est ultra important. En fait, je suis trop content. Et donc, du coup, en fait, comme c'est important, c'est dans ma tête. Je sais, je fais génial dans 3 jours. Voilà, demain, j'ai un dîner. Je fais génial. J'ai ce dîner-là, je le sais. Dans 2 jours, j'ai une cérémonie le soir. C'est dans ma tête parce que c'est des choses, je suis trop content. Et si la chose ne m'emballe pas, je préfère dire non. Où les valeurs sont différentes et c'est comme ça que moi tout est dans ma tête. Après, c'est un style de fonctionnement, ça c'est un truc qui est peut-être pas réplicable. Ceux qui ont du mal, c'est peut-être en effet avoir un système, ça peut être un Excel ou un CRM qui permet de dire tiens, j'ai rencontré cette personne à ce moment-là, je m'en souviens, c'est quelqu'un qui est très connecté, c'est quelqu'un qui est dans ce domaine-là, enfin avoir plusieurs critères et pouvoir comme ça prioriser. Mais moi, c'est tellement authentique, voilà, tout est naturel. Et c'est vrai que c'est pareil, quand quelqu'un a un mariage, moi, le mariage de mon frère, par exemple, ça va être, s'il se marie, je vais avoir la date en tête parce que c'est quelque chose d'important. J'ai pas besoin de la noter. Je sais que ce sera à cette date-là, même si dans 6 mois, parce que c'est quelque chose qui est important. Et donc, c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. Mais ça, je pense pas qu'on peut modéliser. Je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de noter. Ça, c'est peut-être la seule chose qui est pas réplicable. Mais voilà, il y a plein de gens qui ont des Excel, un simple Excel ou des choses comme ça, et ça permet de pouvoir trier et de pouvoir avoir voilà ce carnet relationnel et avoir de se souvenir de tout, de comment on l'a rencontré, de quand est la prochaine rencontre et des choses comme ça.
Génial. En tout cas, Jérémy, moi, je suis hyper touché que tu aies répondu favorablement à la demande parce que c'était pas gagné. Je sais que tu es hyper sollicité. Je vais tenter le coup. Je vais le tenter 5 fois s'il faut. Mais à la deuxième, tu t'as répondu et je me suis dit, ok, c'est bon, c'est super.
Et en plus, t'as pas joué sur l'argument que tu m'avais vu en conférence, parce qu'en général, moi, quand il y a des gens qui me voient en conférence, des trucs comme ça, il y a déjà ce lien-là, et ça aide toujours en disant, bah tiens, je t'ai vu, ça m'a intéressé ce que t'as fait. Non, t'es même pas venu avec cet angle-là, je savais même pas que c'est comme ça que tu m'avais rencontré ou connu, ou tu m'avais connu, et donc il y a même pas eu cette cartouche-là. C'est l'approche, comment ça a été fait. Je sais pas, il y a des gens comme ça, c'est au feeling, c'est aussi du réseautage. Je pense que tout s'est fait, c'est via LinkedIn, et je trouvais que ça avait été bien présenté. Donc voilà.
Bah super. Ça veut dire que je suis pas totalement nul dans le réseautage.
Finalement. Bah non, parce que je suis là avec toi et je prends beaucoup de bon temps avec toi à répondre à tes bonnes questions d'ailleurs. Donc c'est comme
moi
ça.
Moi aussi, j'ai passé vraiment un super moment et puis je suis sûr que alors il y a plein de pépites, hein, je les ai notées au fur et à mesure parce que ça partait comme dans un festival. J'ai noté ça, je suis sûr que les gens qui nous ont écoutés ont noté des choses, etc. Et puis vraiment moi ce que je vous conseille suite à l'écoute du podcast déjà, c'est essayer un truc que vous avez entendu, n'importe lequel. Essayez le truc juste pour voir, pour sortir de votre zone de confort. C'est peut-être pas ça qui va vous apprendre à être des bêtes en réseautage. Après, il y a des choses qu'on peut faire qui sont peut-être plus stratégiques, etc. Et là, c'est peut-être pas mal d'être accompagné pour le faire. Mais déjà, sortir une fois de sa zone de confort, moi, je trouve que c'est vraiment important, puis c'est très gratifiant, et puis ça ouvre des perspectives. Moi, je trouve que là, tu nous as donné plein d'opportunités de le faire. Ce qui nous intéresse aussi, c'est peut-être de savoir un petit peu ton actualité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en ce moment. Si tu as des événements, si tu as des trucs que tu proposes actuellement, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus?
Déjà, pour rebondir, ce que je propose comme challenge à ce podcast pour faire un exercice, et je l'ai fait moi-même quand j'étais à l'étranger, là, à Tenerife, quelques jours, et je l'ai refait cet exercice, et c'est un exercice vraiment très grande hors zone de confort, c'est que j'ai été manger seul au restaurant. Mes gens sont une terrasse où il y a plein de gens. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui n'oseraient pas aller manger seul parce que ça fait passer l'image. Ouais, il n'a pas d'amis, ça fait pitié, il est seul. Et donc, on voit le regard des gens. Et comme ça, arriver à se confronter au regard des gens, de nouveau, prenez ça comme un jeu, ça peut être très douloureux. Ben, je l'ai fait et c'était vraiment sur à côté des plages où il y avait beaucoup de passages, où j'étais seul et je me confrontais comme ça, où on voyait les gens qui disaient « Pourquoi il est seul ?» Ça fait genre Jérémy sans amis. Mais c'est un bon exercice et c'est ça de l'inconfort. Moi, je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Donc, faites cet exercice-là. Ce n'est pas facile, c'est un exercice très compliqué. Ouais. Mais allez manger seul et confrontez-vous au regard des gens qui vont dire « Pourquoi il est seul ?» machin. Donc, faites ça. Et sinon, les actualités…
Alors, attends, je vais quand même te dire un truc. C'est que moi, je vais le faire. Et je vais le faire à Tenerife, parce que la semaine prochaine, je pars, alors je serai avec ma compagne, je lui dirai, bon, ben, soir, tu manges pas, ou on se mettra chacun à une table, parce qu'on va à Tenerife, justement, c'est une drôle de coïncidence.
Si t'es dans la même partie de l'île, je te donnerai le restaurant et tu feras au même restaurant, en plus, c'était super bon le restaurant, je te donnerai le lien du restaurant et vas-y, fais-le.
Génial.
Voilà, c'est un très bon un exercice pour commencer à être à l'aise avec le regard des autres et de vivre ça, le regard des autres, de se dire « Ouh là là, c'est vrai que c'est bizarre ». Au moins, hein, si vous avez du mal à le restaurant, allez une fois au cinéma seul. C'est très inconfortable, mais faites-le et vous verrez que c'est un bon exercice aussi par rapport au regard des autres. Sinon, les actualités, moi, j'ai chaque année un summit en fait de 3 jours justement du présentiel. Bah pour justement avoir toute la méthode de savoir comment réseauter. Et en fait, là, ce qui est important, bah c'est déjà, on sera 150-200. Je limite à ça. De nouveau, il y a une raison. Hein, j'ai dit, je suis pas dans la quantité parce qu'à la fin, tout le monde se connaît. Et le but, c'est créer un maximum de synergie avec des lois derrière. Et en fait, c'est aussi transformer les gens. Donc, il y a énormément des gens. En fait, il y a un avant et un après. Donc, c'est un summit où on apprend vraiment les étapes pour apprendre à réseauter, comment être intéressant, comment aborder, comment faire adhérer quelqu'un à son projet, comment exposer et accélérer sa réussite. On explique tout ça. Et en plus, on a des speakers de renom. On a des très, très grands speakers, des notoriétés mondiales qui viennent partager sur leur vie. Donc, on décrypte leur parcours. Voilà, par exemple, l'année passée, on a eu Aurel Zola. C'est quelqu'un qui a commencé danseur dans sa cave. Et aujourd'hui, il a travaillé avec des gens comme Beyoncé et Rihanna. Comment c'est possible de passer de cette étape-là inconnue dans son garage à travailler avec les plus grands de la planète? Ou ça peut être un entrepreneur qui est passé de zéro chiffre d'affaires à avoir une marque planétaire. Comment le faire? Et donc, je choisis ces gens-là, on décrypte, et alors, c'est beaucoup d'interactions avec le public. Donc, à la fin de ces 3 jours, ça booste d'énergie avec c'est très important parce qu'il y a des gens qui sont trop dans leur environnement. J'ai dit, l'entourage, c'est horrible, on est cassé. Donc, ça crée des déclics aussi. On se dit, ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pendant les mois après, on a ce boost d'énergie, on a une méthode, on a un cahier, il y a des exercices, beaucoup de choses. On travaille la synergologie, il y a des speakers qui viennent et ça, c'est un événement phare qu'on fait du 19 au 21 avril. C'est centralisé, on le fait à Bruxelles, c'est à côté de l'aéroport parce qu'on a des gens qui viennent de toute la francophonie. Alors là, franchement, c'est cool parce qu'on a eu en 3 fois 15 minutes, on a déjà eu plus de 100 places qui ont été achetées. Donc, il reste encore quelques places, plus beaucoup. Et donc, ça, c'est un événement vraiment pour les gens qui se disent, bah ouais, moi, j'en ai marre de stagner, j'en ai marre de pas avancer, je sais pas comment faire, j'ai pas envie de rater l'occasion de ma vie. Quand je rencontre quelqu'un, je veux commencer à savoir faire, je veux ne pas avoir de regrets dans ma vie. Bah, ça, c'est, moi, je conseille toujours aux gens, si vous avez jamais fait de séminaire dans votre vie, faites-en un. Et puis, on a aussi, toujours de temps en temps, je fais des masterclass offertes. Okay. Ça, le lien est sur mon Instagram. Il y a un lien qui est sur mon Instagram et ça permet d'avoir déjà des conseils aussi, voilà, et de pouvoir poser ces questions parce qu'il y a un chat où donc c'est en direct où je réponds aux questions. Donc c'est toujours intéressant de répondre en direct et donc je donne les 3 secrets de networking des 100 personnes les plus influentes au monde. Je donne ces 3 secrets. Je les ai tellement côtoyés et j'ai tellement appliqué ça dans ma vie que je sais comment ça fonctionne et je donne ces 3 secrets. Et ça, c'est des masterclass offerts pour les gens qui ont vraiment besoin. Donc, c'est un peu, voilà. Après, sinon, j'ai toujours toutes mes conférences, beaucoup de demandes de conférences.
Juste le summit, c'est quoi le nom de ton summit? Il y a un nom.
C'est Business Entourage Summit.
Entourage, ok.
Ouais, je mettrai bientôt le lien sur mon Instagram aussi, parce que c'est beaucoup de nos membres pour le moment qui ont rejoint. Donc, ça a été très, très rapide et c'est maximum 150-200 personnes. Et c'est, voilà, c'est magnifique. On a des gens qui, comme je dis, qui arrivent timides et qui ressortent à l'aise et qui osent maintenant parler devant un grand public de 250 personnes. Génial. Donc, c'est génial. Il y a des déclics et tout ça. Et ça, c'est vraiment pour accélérer la réussite. Donc, je dis, hein, il y a beaucoup de gens qui sont bons dans ce qu'ils font, mais ce n'est pas comme ça qu'on se démarque, surtout dans des océans rouges. Il faut le carnet relationnel et ça, on va l'apprendre pendant 3 jours de manière accélérée avec énormément de déclics, des exercices qui sont ultra impactants. Alors, je ne vais pas expliquer les exercices. Là, je fais du teasing, mais on passe par toutes les émotions. La joie, certains des déclics tellement forts. Même les speakers sont retrouvés parfois à pleurer sur ça, tellement que c'est puissant, tellement qu'on va loin et tellement qu'on veut aller dans le détail. Donc, voilà pour les actualités de Business Entourage. Ça s'appelle tout ça Business Entourage.
Bah, on mettra les liens dans les descriptifs du podcast. Si vous voulez aller voir, on mettra les liens.
Voilà, bah, avec plaisir.
Bah, Jérémy, ça m'a fait super plaisir. Vraiment, j'ai appris plein de trucs et puis c'était surtout un moment agréable. Donc merci. Bah,
merci à toi, Cédric, aussi de créer ce genre de moment. Hein. Je sais que créer un podcast, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de la préparation. Donc bravo à toi aussi.
Et j'adore ça.
Compris, c'est que c'est un podcast qui fonctionne très très bien en plus dans le management. Donc bravo d'avoir tenu. Moi, j'avais interviewé à la radio. Aussi quelqu'un qui est podcasteur, comme Mathieu Stéphanie de YouTube, et il me disait le meilleur conseil dans les podcasts, c'est d'en faire minimum 50. Et c'est comme ça qu'on commence. Et je suppose que tu en as fait beaucoup plus que 50. Et
on les a pas numérotés tout de suite, mais l'autre fois, Hugo, il me disait qu'il y en avait, je sais plus, 450 ou 500.
Voilà. Tout est dans la constance et dans la répétition. Pareil, je suis certain qu'entre ton premier podcast et celui d'aujourd'hui, c'est un monde de différence. Aujourd'hui, tu es trop à l'aise, alors qu'au premier, tu es peut-être en train d'avoir peur. Et bravo à toi de tenir sur la distance et de créer une communauté croissante dans le monde du management.
Super sympa. Je te remercie. Bonne continuation à toi aussi.
Merci à toi.
À bientôt. On se croise.
À bientôt.
Ciao.
Salut.
Alors, tu vois, je viens de faire un petit calcul. On a à peu près 3 millions de téléchargements du podcast et on a à peu près 890 avis sur le podcast. Bah, en fait, ça fait que 0,03% de personnes qui, après avoir écouté un épisode, ont laissé un avis. Je trouve que c'est pas un super pourcentage et je pense que vous pouvez être plus nombreux, quand un épisode vous plaît, à mettre un avis positif. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous rend un énorme service et ça nous fait super plaisir. Merci.